Coucou la MIF, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis au Zèbre de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas ? Vous n'avez aucune preuve. Donc venez, franchement ça va être marrant. Toutes les dates sont sur mon site fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc voilà, j'ai trop hâte. Des bisous.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Le lyrisme, c'est ça, c'est rendre hommage à ce qu'est notre vie en se disant, waouh, quand même, parce que finalement, je trouve que les gens, ils se permettent d'être lyriques, ils conçoivent les choses lyriquement que sur des décès. Je trouve ça fou à quel point les gens ont du mal à juger, alors que c'est en train de se passer, de la force de ce qu'ils sont en train de vivre.
Nouvel épisode des gens qui doutent avec Vincent Delerme, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, dramaturge, réalisateur et photographe. Il a sorti son premier disque en 2002 pour lequel il a remporté une victoire de la musique et s'est fait remarquer pour son sens de l'observation, du détail, pour la façon dont il raconte les petites choses qu'on voit, qu'on vit et qu'on pensait être les seuls à remarquer ou à ressentir. Depuis, il a sorti pas moins de 7 albums, toujours sur le label Tôt ou Tard, et là, il vient de fêter ses 20 ans de carrière, donc c'était l'occasion de se poser avec lui et de discuter de plein de trucs, du fait qu'on est tous plein de doutes et étrangement fascinés par les gens qui semblent ne pas en avoir, de comment savoir si un truc vaut la peine d'être raconté, des facteurs travail et chance dans le milieu artistique, des risques d'un premier album qui marche très bien. Par exemple, lui, après son premier disque, il a refusé de faire l'Olympia et la couverture de Télérama, de la création, de l'écriture qui sont souvent fantasmées alors qu'en général, c'est pas très glamour, c'est juste un mec tout seul qui note des trucs, de l'importance des gens qu'il appelle les vendeurs de vitamines qui apportent de la beauté, des éclats de lumière dans la vie, du problème avec les avis trop positifs sur internet et de Hugo Loris. J'espère que ça vous plaira. Merci d'avoir accepté déjà.
Mais avec plaisir.
Je trouvais ça fou parce qu'en fait, moi honnêtement, j'écoute pas depuis longtemps. Et là, quand t'as sorti La Trappe Cœur, je me suis dit, ah putain, c'est mon roman préféré. Il a repris Les gens qui doutent, c'est l'un du podcast. Sur la scène, il y a des confettis, c'est la cover du podcast. Et t'as une chanson qui s'appelle La vie devant soi, qui est mon deuxième roman préféré. Je me suis dit, ok, là...
Tout s'est joué sur les confettis.
Tout s'est joué, absolument. Alors parle-moi de ces confettis. comment t'as découvert cette chanson, toi, Les gens qui doutent ?
Oh, moi, je viens vraiment de... Ma mère est tellement fan d'Anne Sylvestre, frange de parents profs années 70 qui évidemment aussi connaissent les chansons pour enfants, j'en ai entendu quelques-unes, mais surtout ont toujours eu un discours de dire « Ah, c'est un peu dommage, les chansons pour adultes des fois sont éclipsées par les chansons pour enfants », ce qui était encore le cas au moment où on a fait la reprise avec Albin et Jeanne, parce que même on s'était dit, on adorait des chansons comme Carcasse ou enfin plein de chansons de d'Anne, et on s'était dit « C'est fou », parce que, et ça c'était, je sais pas, 2005 par là, et on disait « Notre génération connaît quand même beaucoup par les chansons pour enfants, donc ce serait super de faire une reprise du répertoire adulte dans un spectacle. » Donc on a choisi la chanson comme ça. Moi, c'est la seule fois de ma vie que je l'ai chantée, cette chanson.
Ah ouais,
je pense que c'est la chanson de moi qui est la plus écoutée.
Ouais, il y a plein de gens qui pensent qu'elle est de toi, cette chanson.
Ah, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas à minima, les gens pensent que je la fais très souvent, que tu vois, genre, c'est une chanson que je fais une fois sur deux à la fin de mes spectacles. Il se trouve qu'on l'a chantée ce soir-là et que, en fait, comme le principe, je crois, bah évidemment, il y a la force de cette chanson, aussi le fait que son titre donne un peu toutes les clés de la chanson. C'est assez rare que tu puisses avoir dans le titre tout le principe, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, ça peut donner un titre de podcast. Enfin, une fois que t'as sorti ce titre, bah, ça dit déjà quelque chose en soi. Là où, bah, voilà, encore une fois, c'est très rare. Même Full Sentimental ou des chansons comme ça ne contiennent pas complètement cette idée-là, de manière si nette. Et en fait, comme on était avec Albin et Jeanne, chacun on se relayait au piano, l'idée c'était que je commençais, que Jeanne arrivait, elle se mettait à un point. Parce que les gens connaissent, ça a été filmé, mais ils connaissent que la version audio, et qui constituait de grandes plages de silence. Parce qu'à chaque fois, le temps que Jeanne s'assoit au piano, me remplace au piano, et pareil pour Albin. Donc il y a une sorte de truc bizarroïde dans cette version, qui a fait un peu aussi, je pense, paradoxalement, parce que ça, on pourrait se dire, c'est le truc qui fait que personne ne l'écoute, parce qu'à chaque fois, il y a des blancs de 20 secondes au milieu, mais je pense que ça a créé un truc, voilà. Mais avec Albin, c'est pareil, lui, c'est une chanson dont on lui parle régulièrement, alors que pareil, il l'a chanté que cette fois-là.
Et toi, c'est quoi ton rapport au doute ?
Moi, j'ai tendance à être un peu une fausse personne par rapport à ce qu'on imagine de moi. Une fausse personne, pas dans le sens pas honnête, mais dans le sens que finalement, on me prête par exemple pas beaucoup de mélancolie ou de nostalgie, et j'en ai pas tant que ça. Parce que finalement, par exemple, la nostalgie, parce que je suis très au courant de trucs du passé que j'ai gardé. Je sais où c'est classé. C'est pas des trucs que je perds de vue, mais c'est pas du tout des trucs dans lesquels je me baigne à longueur de journée. La mélancolie, pareil, c'est ce qui me fait le plus d'effet dans les chansons des autres, et je suis sensible aux ambiances, donc des fois à des atmosphères comme ça. Mais finalement, si tu fais des chansons sur un mode mélancolique, c'est bien la preuve que t'es ignifugé, quoi. En gros, c'est que si t'étais complètement, ça te déprimait complètement une ambiance dans Évreux avec de la flotte ou de la neige, enfin je sais pas, tu ferais pas des chansons là-dessus. Donc ça veut dire que moi, au contraire, souvent il y a des gens qui vont dire ah non ce resto là c'est trop glauque, je vois vraiment pas où est le problème, enfin je dis c'est pas grave du tout. Et le doute, c'est un peu pareil, c'est que finalement, je vais pas dire que j'en ai pas, mais j'en ai quand même assez peu. En tout cas là, je parle plus professionnellement, comme chanteur j'en ai eu assez peu, et il valait mieux pas en avoir, parce que étant donné la nature de ce que je faisais, ma manière de chanter quand j'ai commencé et tout, au contraire, il fallait avoir un truc un peu c'est comme ça et c'est pas grave, j'y vais. Si j'avais commencé à dire ah je suis pas sûr, voilà. Après, là où le doute est intéressant, existe beaucoup pour moi, c'est pas vraiment un doute, mais c'est une absence de certitude, ce qui est pas tout à fait la même chose dans la création, parce que finalement, quand tu mets en place un nouveau projet, on te demande toujours d'annoncer, alors qu'est-ce que tu vas faire, ça va parler de quoi ton album, ah tu fais un nouveau film, c'est quoi le sujet, ou ça va ressembler à quoi. Et j'essaye toujours, et j'ai la chance de bosser avec des gens qui me permettent de ne pas savoir ça, et de leur dire honnêtement, si je savais maintenant, avant même d'avoir bossé dessus, d'avoir tenté des choses et des hasards et des trucs, à quoi ça va ressembler, bah ça n'aurait aucun intérêt, parce que ce serait une sorte de produit que j'aboutis. Et je veux, là, tu vois, je suis typiquement dans une phase comme ça, puisque là, j'ai une année devant moi où je veux faire des choses, je veux mettre en place un film, je veux réécrire des chansons et tout, mais je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Et ça me plaît, mais c'est délicat à défendre, parce que on attend quand même toujours des gens qui sachent un peu où ils vont. Il y a beaucoup de... Souvent, la phrase, les gens, ils disent... En tout cas, elle sait ce qu'elle veut. Enfin, moi, je trouve pas ça génial de savoir ce qu'on veut. Pareil, j'aime bien la timidité. J'ai pas de. Souvent, c'est un truc qu'on entend sur des adolescents aujourd'hui. On dit, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il est pas du tout complexé. Oui. Enfin, pourquoi pas. Mais c'est pas grave de pas être complexé. Mais c'est pas grave d'être complexé non plus. Enfin, il y a un truc qui est curieux, parce que tout le monde a beaucoup de doutes en soi et beaucoup d'hésitations. Et se demande s'il vit dans la bonne ville, s'il vit avec la bonne personne, s'il a fait le bon métier. Enfin, tout le monde est rempli que de doutes. Et en même temps, une sorte de fascination pour les gens qui savent. T'as qu'à voir sur Instagram, tous ces petits modules avec des gens qui prennent la parole pour dire comment tu peux réussir dans le business. Enfin, il y a une sorte de... Les gens sont fascinés par ça. Et en même temps, eux-mêmes sont remplis de doutes. Donc c'est assez curieux. Mais bon, après, c'est des concepts abstraits. Et c'est sûr que moi, j'ai pas beaucoup... C'est rare, tu vois, quand tu me dis c'est quoi ton rapport au doute, c'est jamais une question que je me suis beaucoup posée, mais quand je chante les gens qui doutent, c'est comme si je chantais, j'aime les gens qui sont timides, ou les gens qui, pour le coup, j'avais fait une chose qui s'appelle Danser sur la table, et qui parle de ça, du fait qu'il y a des gens, c'est pas leur tempérament, ils peuvent pas se réinventer, et c'est bien comme ça aussi de, tu vois, de qui a rien à voir. Il y avait Hugo Loris qui est parti à la retraite, on lui dit alors vous avez des regrets, et il dit en même temps ouais, on dit que je suis nul sur penalty, Mais moi, mon principe, mon mental, c'est d'être un peu réglo, de pas faire le malin, donc de savoir déstabiliser un mec qui va tirer un penalty, je sais pas le faire. Voilà, j'ai pas su le faire dans mon parcours et c'est pas grave, c'était dans ma colonne des moins, qui est aussi une colonne des plus. C'est ça la force de tous ces concepts-là, que ce soit le doute par exemple, c'est que c'est censé être un moins et qui est quand même plutôt un plus.
Il y a quoi dans ta colonne des moins ?
J'ai fait une réponse très longue, hein, pardon. dans ma colonne des moins, dans quel domaine ? En général ?
Ouais.
Ah, il y a quand même pas mal de choses. Je suis assez orgueilleux. J'avais un prof de philo qui m'avait dit ne soyez pas aux abois de l'herbe. Parce qu'en fait, il m'avait dit un truc. C'était un prof qui nous impressionnait beaucoup. Et j'avais répondu un peu vite. Enfin, j'avais dû répondre un premier truc. Il avait dû me dire non, c'est pas ça. Et j'avais dû tout de suite répondre quelque chose. Et ça, quand j'ai commencé, j'étais un peu aux abois aussi, parce que justement j'avais l'impression de défendre un truc qui n'était pas si facile que ça à défendre dans le paysage. Et voilà, donc avec les années forcément tu te détends un peu, mais oui, je suis assez radical, j'ai pas beaucoup de... Je sais pas, il y a des trucs que j'aime pas, enfin quand je dis trucs que j'aime pas comme tout le monde, mais enfin, chez les chanteurs ou chez les chanteuses, il y a beaucoup de postures, de gens qui font tout un truc. Moi j'adore vraiment l'idée de comprendre qui est la personne derrière quand quelqu'un fait un film ou quand quelqu'un fait une photo, enfin je me dis, et la chanson particulièrement, c'est un domaine où j'ai toujours adoré me dire tiens, cette personne elle doit être comme ça puisqu'elle chante ça, puisque donc à chaque fois que la panoplie ou la production sonore ou enfin prennent le pas sur ce qui pourrait me permettre de comprendre vraiment qui est la personne fondamentalement, c'est un truc qui me sort un peu du match, et c'est un truc qui arrive souvent. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on demande pas mal aux gens qui font de la scène, par exemple.
T'as encore une posture, toi ?
Moi, j'ai pas beaucoup de posture. J'ai un personnage sur scène qui est parce que je me comporte pas. Enfin, c'est pas que tout est pas différent dans la vie, mais quand même, c'est un petit bonhomme que j'ai mis en place. C'est un peu comme si c'était une pièce de théâtre, en fait. Tu vois, mais je dirais pas que c'est une posture. C'est la posture pour moi, c'est un truc aussi que t'as quand tu fais des émissions, tout comme ça. Et là, par exemple. Moi, je suis pas très différent quand je fais de la promo de qui je suis dans la vie. Après, sur scène, c'est encore une fois autre chose, parce que déjà, les premières fois que tu mets les pieds sur une scène, bah, du fait qu'il y a cette situation qui est très anormale, ton corps s'organise d'une certaine manière, tu trouves des parades pour te tenir, pour une manière de parler, une manière rythmique de dire les choses qui est pas tout à fait la vie normale, et heureusement, parce que sinon là pour le coup ce serait vraiment très impressionnant d'aller sur scène et de se dire tu vois, je me souviens d'une discussion avec Biolay il y a longtemps, puisque c'était au moment où justement on avait fait l'album qui contient Les gens qui doutent, on reprenait une chanson à lui sur scène, et il était venu, et en fait il est arrivé sur scène habillé comme il avait été toute la journée. Et je lui avais dit, mais putain, je sais pas comment tu fais. Moi, ça m'intimiderait vraiment. Me dire, je passe de la loge, enfin, de la journée à comme ça, puis je monte sur scène, puis genre. Et on a reparlé une fois récemment, il m'a dit, c'était bien que tu m'aies dit ça, parce que maintenant, je fais plus jamais ça. Et c'est vrai que ça te donne un peu l'impression que pas que tu mets un vêtement de super-héros, parce que des fois, ça consiste juste à mettre un t-shirt propre, quoi, tu vois, mais.
C'est déjà bien.
C'est déjà pas mal. Mais oui, c'est que c'est mentalement, tu te mets dans la position de quelqu'un qui va faire un truc qui est pas tout à fait la vie normale. Donc je sais pas si c'est une posture, mais c'est forcément une petite adaptation.
Et toi, il y a d'autres choses que te changer, ou t'as besoin de te mettre dans ce petit sas de je vais faire un truc qui est pas logique?
En fait, le truc, c'est que les périodes où tu fais de la scène, enfin moi en tout cas, c'est des périodes où tu considères que c'est normal de faire de la scène. C'est-à-dire que tu dis, bon, ouais, un soir sur 3 ou 4, ou sur 10, ou tous les soirs, j'avance, des gens m'applaudissent, bah, c'est bien normal, quoi. Tu vois. Sauf que ça, donc, c'est une période comme ça. Donc, ton corps est programmé pour te dire que c'est presque naturel, alors qu'en fait, c'est complètement n'importe quoi. Et dans les périodes où tu lâches, où tu viens de faire ta dernière et où t'as plus rien pendant un an ou deux, moi, quand je vais voir un spectacle, là, si je vais voir un spectacle, je vais me dire, mais je sais pas comment ils font pour aller sur scène. Enfin, c'est tellement, tellement étrange. Mais voilà, c'est un peu un truc de, moi, ouais, de programmation mentale. Et puis, c'est un truc que des fois je dis aussi, c'est que tu, quand tu fais de la scène, c'est quand même, ton pic de forme énergétique doit être à partir de 21h10. Donc, ce qui est pas du tout le schéma classique d'une journée. Donc, ça veut dire que toute la journée avant ça, t'es un peu, en dedans, à avoir un petit fil tendu vers le moment du soir où tu vas, voilà, et ça compte beaucoup, je trouve, quand tu fais des spectacles, de te dire que t'es la personne la plus en forme de tous les gens qui sont là. Parce que si tu commences à dire, il y a un mec au quatrième rang qui a 10 fois plus de jus que moi, c'est pas très agréable comme, comme sensation, et tu dois, pour notamment en piano solo, je trouve, avoir un peu la sensation que c'est toi qui donne le tempo et mais que tu domines les choses, donc enfin je caricature en disant le truc du mec au quatrième rang, mais c'est sûr que oui y a... mais non, sinon je crois pas trop qu'il y a d'autres choses.
Et comment tu fais tu vois, quelqu'un comme toi qui fait énormément de choses différentes, qui est sur pas mal de projets et tout en parallèle, pour que justement le sommet de ta journée ce soit ton spectacle, alors que peut-être que t'as peut-être bossé sur un film la journée.
Ah oui, non. Non, dans quand il y a des journées de spectacle, pour moi, c'est vraiment hyper sacré. Je fais aucune promo la journée. Déjà, j'en fais pas non plus des spectacles, j'en fais pas non plus des milliers et des milliers. Mais oui, ça, c'est un luxe qui est venu avec les années. C'est que ça m'est arrivé des fois sur scène de me dire, waouh, je pourrais être, le spectacle pourrait être honnêtement un peu mieux si j'avais pas fait cet entretien d'une heure et demie dans la loge avant. Ou si hier soir je m'étais couché un peu plus tôt, enfin bon, tu vois, des fois tu vas vraiment trop tard. Et là, t'es au piano face aux gens qui ont payé leur place, qui attendent de toi un truc. Tu sens que qu'il te manque du carburant et tu te dis, bon, voilà, ça s'appelle juste la conscience professionnelle en fait finalement. Si tu résumes, et ça, t'as ça dans tous les métiers. Mais c'est vrai que c'est plus valable pour les spectacles. Et maintenant, je me dis, c'est tellement dingue de faire des spectacles. Dans le sens que c'est complètement contraire à tout ce qu'il y a autour de nous dans la société. C'est-à-dire que les gens prennent du temps pour eux, ou leur téléphone va être complètement coupé. Bon, peut-être ils vont faire quelques photos, mais en gros, voilà. Donc, ils regarderont pas s'ils reçoivent des messages pendant 2 heures. Ils payent 30, 40, 50 euros une place là où tout le monde tire la langue en ce moment économiquement. Ils prennent du temps pour s'intéresser à autre chose qu'eux, alors qu'on est dans un modèle aujourd'hui qui quand même consiste à beaucoup être voilà, tourné sur soi, sur ses états d'âme, et on comprend ça. Donc le fait, en fait, tout le monde considère que c'est toujours normal que les gens viennent voir des spectacles. Bah oui, ça fait partie de la vie, mais en fait, je trouve ça complètement anachronique d'une certaine manière, pas du tout en phase avec le fait que c'est quand tu prends un wagon de métro, encore une fois, tu vois presque personne lire un livre, ou dans la rue c'est très rare les gens qui regardent le paysage ou des choses comme ça. Donc voilà, raison de plus pour ne faire que ça les jours où il y a des spectacles. Et puis ça, j'ai du pot parce que j'ai toujours été suivi par un label qui m'a jamais mis de pression là-dessus, qui me dit pas, ouais, c'est un peu dommage, on aurait pu faire un France Bleu. Non, ils me disent pas ça.
Est-ce qu'on s'habitue à ce rythme? Là, ça fait 20 ans. Est-ce qu'on s'habitue à ce rythme de tourner, que tu sois obligé d'être au top le soir?
Non, mais c'est, en fait, tu sais, c'est quand même très, c'est un job très particulier parce que il est rempli de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire que la phase où tu fais des chansons dans ton coin, elle est hyper solitaire, elle est hyper, enfin, t'es vraiment chez toi, t'as tes journées pour toi, personne s'intéresse à toi, et c'est même souvent, je pense que c'est un moteur assez fort, en fait, pour faire des choses aussi, de se dire, ah là, j'ai l'impression que plus personne ne s'intéresse à moi. C'est ce que tu dis.
Toi, tu crées mieux quand tout le monde s'en fout?
Bah oui, parce que t'as envie d'exister, quoi. T'as envie de dire, ah, en fait, j'ai un truc à dire. Et donc, de rattraper les gens par la manche.
Regardez le pli de ce rideau.
Ouais, c'est ça. Donc, bon, peut-être ça joue. Et puis après, bah oui, la phase où tu prépares les trucs, tu fais écouter, tu réfléchis avec qui tu vas faire ton album. Alors, bon, t'as plusieurs options, soit tu retravailles avec des gens que tu connais par cœur, soit au contraire tu découvres des équipes. Après, le studio, c'est encore une autre énergie qui est super, que j'ai... Franchement, ça fait un peu, pour le coup, discours hyper entendu. Mais enfin, moi j'aime vraiment toutes les étapes. C'est-à-dire qu'elles sont tellement différentes. J'adore ce moment où tu fais des chansons dans ton coin, personne te demande rien et tout. Le moment où t'es en studio, c'est quand même... un peu un fantasme, ouais, que t'as, enfin, quand je sais, la première fois que j'ai découvert des images de chanteurs en studio de Gainsbourg sur Initial Bébé, enfin, c'est un truc. T'as aussi des gens qui sont autour de toi, qui s'occupent d'essayer de porter tes chansons, de te faire une orchestration qui va les mettre en valeur, de se dire, ah ouais, non, peut-être la chanson, elle serait mieux si elle faisait 3 couplets et puis 2 refrains au lieu de 3 à la fin. Enfin, bon, forcément, il y a un truc qui est touchant parce que c'est des trucs tellement perso que tu défends dans tes chansons. C'est un peu ta vie, et puis c'est aussi touchant dans la mesure où les gens qui sont face à toi dans ces cas-là, bah c'est des gens, eux, ça n'a rien d'exceptionnel ce qu'ils sont en train de vivre avec toi. C'est-à-dire que eux, c'est leur métier, donc quand tu seras parti, ils vont recevoir une chanteuse, pareil, pour qui ce sera le gros enjeu de faire son album qu'elle fait tous les 2 ou 3 ans, Et ça m'impressionne toujours parce que du coup, on leur demande beaucoup d'implication énergétique et d'enthousiasme. Et puis, ils peuvent pas se permettre de dire bon, bah là, aujourd'hui, je suis un peu pas dedans, donc je vais juste faire record. Et puis voilà, donc c'est assez fort. Et après, évidemment, la préparation du spectacle, c'est un truc. Le fait de ce moment où tu dis bon, moi, par exemple, la problématique, c'est souvent être seul ou pas seul. Parce que tu gagnes des choses quand t'es seul et tu en perds aussi, tu perds de la mobilité sur scène parce que si t'es tout seul, parce que t'es un peu vissé à ton piano et que donc même s'il y a des vidéos, faut trouver des principes de vidéo qui va pouvoir être jouer avec toi alors que tu restes toi en place au même endroit. Mais par contre, t'as une complicité avec la salle qui est hyper forte parce que c'est ton interlocuteur. Là où quand t'as des musiciens, évidemment, s'il y a des trucs. Des complicités, c'est plus en se regardant entre musiciens, mais d'un autre côté, tu gagnes des trucs parce que ça peut être plus riche musicalement et tout ça. Enfin bon, bref, t'as ce moment-là, puis après, tu pars répéter, et donc ainsi de suite. Donc ces étapes-là sont tellement... Et au milieu de ça, effectivement, moi, depuis quelques années, je trouvais aussi que c'était quand même un... Il y a des temps morts aussi. Déjà, tu fais un album tous les 2-3 ans qui contient 12 chansons. Donc ça veut dire que t'es censé en faire 4 par an. Donc forcément, t'as...
Ouais, mais toi, entre les deux, tu fais genre un film et 3 expos.
Oui. Mais c'est venu, ça, tu vois, c'est venu seulement depuis 10 ans. Je faisais pas ça les 10 premières années. C'est venu, au début, je me disais, bah. Et même, je m'empêchais un peu de ça. C'est-à-dire que je venais du théâtre. À Rouen, j'avais fait du théâtre quand j'étais étudiant. Et puis, j'avais envie d'en faire encore, mais je me disais, waouh, non, en fait, tous mes potes de cette bande-là, ils font du théâtre eux-mêmes, ils rament un peu là-dedans. Je vais pas m'amuser à faire un truc. Déjà que ça a marché pour moi en chanson et que j'ai eu de la chance de ce côté-là, court-circuiter leur désir de ça, enfin ou leur ambition de ça. Donc dans un premier temps, et je me tenais un peu à carreau. Et puis j'avais aussi cette idée de que j'ai toujours pour certaines choses de rester à sa place. Ça c'est un truc qui compte beaucoup pour moi. Les gens qui savent rester à leur place, ça veut pas dire ne pas faire des choses différentes, mais ça veut dire ne faire que des choses où tu sens que tu peux être un peu légitime parce que t'as bossé ton dossier. Ça peut être parler de la plantation du cacao au Venezuela.
Mais comment tu sais que t'es légitime tant que t'as pas essayé?
Bah non, tu sais si t'es légitime si tu passes du temps sur un dossier, quoi. C'est-à-dire si tu passes du temps à faire des photos, à faire ça pendant 2-3 ans et puis à progresser, à un moment donné tu te dis bon, j'estime que je peux proposer quelque chose. Par contre, si tu te dis tiens, bah je vais prendre un appareil photo cet après-midi puis ce soir je vais faire une expo, là oui, non, t'es pas légitime. Or, c'est quand même un truc qui arrive souvent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent sur des sujets et moi c'est ma hantise quand je fais des promos, qu'on me dise qu'on me fasse parler de sujets de société où je n'ai pas du tout autre chose à dire que ce que dirait ma voisine de palier, qui a un avis que je respecte, mais moi mon avis n'est pas plus pointu que ça. Donc parce que je me suis pas penché là-dessus plus que tout le monde, c'est-à-dire que j'ai juste entendu les infos le matin, je me suis dit ah putain c'est dégueulasse, enfin voilà, donc et il y a des gens qui sont des spécialistes et moi j'adore les spécialistes. Par exemple, tu vois, pour le son, quand tu fais des albums, maintenant il y a plein de home studios, tu pourrais tout faire tout seul, mais j'aime bien la culture des ingénieurs du son, j'aime bien que les gens soient spécialisés. Moi, j'adore le sport. Mais je refuse toutes les émissions où on me ferait venir pour parler de sport. Parce que je vais être à côté d'un mec qui bosse ça depuis toujours. Et pour moi, c'est lui qui doit savoir. T'as ça en critique, par exemple, quand tu faisais les émissions de Ruquier, t'avais des chroniqueurs qui avaient écouté ton album dans l'après-midi, puis ils disaient « Ah, moi, j'aime pas trop. » Enfin, je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? » Il faut des gens légitimes. Moi, j'aime bien être... critiqué par des gens qui s'y connaissent en musique, en chanson, et après que tout le monde a un avis sur toi, ça c'est autre chose et c'est normal quand t'es chanteur. Mais par contre, d'avoir un avis et de dire regardez, écoutez mon avis, je pense qu'il est vraiment excellent, alors que c'est juste ta petite pensée personnelle du jour, ça marche pas pour moi.
Et t'arrives à ne pas être touché quand même par ces avis là
je crois, parce que sinon j'aurais vraiment arrêté assez tôt. Ouais. Mais après, honnêtement, t'as souvent, enfin, ces avis-là, ça arrive pas si souvent, mais aujourd'hui, finalement, c'est devenu tellement dingo, le truc que tout le monde donne son avis, que tout le monde est au courant. Que ça vaut pas grand chose, que les réseaux sociaux, c'est un peu n'importe quoi. Mais il y a une époque où, c'était plus entre deux, quoi. Tu te disais, ah, c'est quand même quelqu'un qui passe à la télé et qui dit ça, donc ça doit être un peu vrai. Mais, de toute façon, les trucs qui t'embêtent comme ça, bah franchement, sur le moment, oui, t'as un moment où tu dis ah, t'as envie d'en plafonner la personne, et tout. Et puis le lendemain, tu passes à autre chose. Mais tu peux pas dire que ça te fait rien. C'est comme sur les imitations, ça m'a toujours. C'est toujours dit les hommes petits qui disent ah, j'adore ma marionnette au Guignol de l'info ou j'adore. Non, en fait, c'est jamais très agréable. C'est quand même on se fout un peu de ta gueule quand même. Donc tu peux dire, il y a deux choses. Tu peux dire c'est normal, ça fait partie du jeu, mais dire je suis mort de rire quand on m'imite, ça non. Tu vois.
Mais d'un côté, ça fait partie du jeu, pas tant. Enfin,
je veux dire, tu signes, c'est à la page 2 du manuel que si tu veux faire cette job là. Tu prends le risque ou le. Enfin, tu vois, tu.
Non, mais de base, si tu veux faire des chansons, d'où. Enfin, tu vois, il y a un truc. Ah, mais
dès que
t'apparaît
publiquement,
dur,
tu sais que. Voilà, tu découvres pas ça la première fois que ça arrive. Tu sais que c'est un truc qui est possible. Que Francis Cabrel, à un moment donné, il a rasé sa moustache parce qu'il avait sa marionnette qui avait sa moustache. Et que donc, même sur des gens qui sont loin de ça, a priori, ça a une influence. Encore une fois, moi, ce que j'aime bien, c'est le fait d'être un peu transparent là-dessus, de pouvoir parler. Parce que si, il y a beaucoup de gens qui ont une sorte de discours un peu tout fait, je te dis le truc, j'adore ma marionnette, ça m'a toujours fait, c'est toujours dit, ouah, hop, hop, hop.
Pourquoi tu penses que les gens étaient aussi binaires à ton sujet au début ? Genre, j'ai lu cette couve là de époque, je pense. C'était pour ou contre Vincent Delerme ?
Bah, en fait, ça tient aussi un peu au contexte. C'est-à-dire que les années 90, ces années où en musique, je comprenais pas trop en fait comment j'allais arriver à glisser ma chaussure dans l'entrebâillement de la porte. Parce que justement, très tôt, j'avais ce truc de me dire ce qui compte pour moi, c'est. Des personnages de chansons qui des fois peuvent avoir des défauts mais qui vont dire un vrai truc d'eux qui compte, même si tout autour n'est pas super lissé, les clips, la prod musicale et tout, et qui a un côté un peu presque maladroit aussi, finalement, qui a une notion qui est pas si loin du doute que ça, enfin la maladresse, le fait d'assumer ça. Et c'était des années des comédies musicales, de Obispo Zazie, leur musique, mais même leur clip. Si tu regardes un clip de... Je sais pas, j'ai une vision là, d'un clip de Zazie où elle a une tenue hyper... un peu comme métallique, où elle rampe au milieu de miroirs. Et c'était... Moi, je me disais pas du tout ça. Moi, j'avais envie de faire... Enfin, je savais même pas si j'avais envie de faire des clips, mais en tout cas, je me disais, là, c'est un autre monde, quoi. Et puis, tu sentais que tu pouvais rentrer là-dedans. Ça a beaucoup changé. Que si quelqu'un te faisait signer sur un label, tu pouvais pas du tout faire exister ta musique sans ça. Donc t'avais une sorte de comme une boîte de nuit dans laquelle il fallait rentrer avec un videur à l'entrée. Et s'il te disait non, toi tu rentres pas, tu rentrais pas du tout. Tu pouvais pas dire bon, je vais quand même mettre ma musique un peu en ligne. Il y aura peut-être quelques personnes qui vont. C'était on off. Et c'était on off pour tout. C'était on off aussi pour sortir un disque, mais pour obtenir des arrangements, pour enregistrer. T'avais pas de matériel où tu peux faire le truc de manière correcte chez toi. Pour faire des séances photos, donc c'était on allumait la lumière ou pas. Et quand tôt ou tard a un peu allumé la lumière pour moi, bah c'est sûr que c'était particulier, ce mec qui arrivait comme ça. Mon album était étrange parce que j'avais voulu qu'il soit qu'il assume, comme j'aimais beaucoup d'un côté la chanson et la pop de l'autre, je voulais pas faire un truc entre deux. Je me disais faut choisir son camp. Il y a eu tellement de disques où il y a marqué à la croisée de la pop et de la chanson qui sont faits pour que les gens qui aiment la pop se disent ah bah oui c'est pour moi, ah oui moi j'aime bien la chanson. Je disais ça marche pas ce truc, il faut choisir, faut être un peu radical. Et donc j'ai fait un disque qui était très dans la production de son. Je crois qu'il n'y a pas une seule batterie, il n'y a que du piano et du quatuor à cordes et quelques instruments acoustiques, donc c'était un peu bizarre. Et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient bah, pourquoi ce mec-là, si lui le fait, en plus comme c'était des chansons qui parlaient du quotidien, ils disaient bah moi aussi je peux le faire, il suffit de raconter que je suis assis sur un canapé, puis que il est 23h12, et puis que voilà. Sauf que évidemment.
Il faut citer la marque du canapé.
Ouais, faut citer la marque du canapé. Sauf que dans ces cas-là, tu dis genre bah allez-y, rien ne vous empêche, mais après il va falloir tenir 1h45 sur scène avec ça et bah vous verrez bien quoi si vous y arrivez, parce que tu peux voir le truc à l'envers, tu peux dire bah ouais putain c'est balèze du coup en chantant comme je chante et en faisant qu'un truc avec des marques de canapé d'arriver à faire ça. Tu vois, moi j'avais un peu ce truc là, j'étais un peu frondeur parce que c'était aussi ma faute, c'est-à-dire que par exemple je me suis beaucoup réclamé de gens qui étaient là avant moi. J'ai beaucoup dit, je le dis toujours, que je suis venu à la chanson parce que j'aimais les chansons des autres, et si tu fais ça, La France est un pays un peu étrange parce qu'il y a un peu attraction et répulsion pour les branleurs. C'est-à-dire que on n'aime pas les branleurs, mais en fait, quand même, on est un peu fasciné par eux. Donc, si t'es pas assez branleur dans ton discours à dire non, mais moi, je me suis fabriqué tout seul, de toute façon, c'est que de la merde, les chanteurs qui vivent avant moi. Enfin, bon, bah, on se dit, tiens, oui, bon, le mec, oui, il fait des chansons parce qu'il a bien aimé ça. Il y a une petite condescendance, tu vois, qui se fait et qui était là, mais très tôt, quand même, j'avais cette idée que. Ce qui comptait, c'était évidemment que n'importe quelle chanteuse ou n'importe quel chanteur, il peut apparaître sur une période de 3-4 ans. Ce qui compte, c'est de tenir. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est les gens qui sont là depuis 30 ans, depuis 50 ans. Enfin, et c'est assez rare, parce qu'à l'œil nu, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup, parce que eux, tu les vois, tu te dis, bah oui, regardez, Souchon, Aznavour, Charles Trenet, Souchon, Cabrel. Mais en fait, on se rend pas compte du nombre de gens qui disparaissent. Et ça, c'est normal, parce qu'ils disparaissent, donc tu le vois moins. Mais
Faudel.
Ah oui, bah, si tu commences à ouvrir la liste, t'es fou. Des gens qui ont existé beaucoup à un moment donné. Et ça, voilà, j'avais. C'est sûr, je te disais au début que j'étais un peu orgueilleux. J'avais ce truc-là de me dire, moi, j'aimerais bien faire un truc année après année, spectacle après spectacle, construire quelque chose qui fait que. Que les gens qui t'aiment bien s'y retrouvent, par exemple sur les spectacles. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, comme je te disais, moi, je suis. J'ai cette contrainte d'être à un piano, donc tu auras à l'infini ce gros paquebot au milieu de la scène, et il faut inventer autour de ça un truc que t'as pas fait la fois d'avant. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour moi. Je passe beaucoup de temps à réfléchir à ça, à me dire comment on pourrait faire cette fois-ci pour amener un truc qu'on n'avait encore jamais fait. Et ça, c'est super d'ailleurs comme enjeu.
Là, tu vois, j'ai trois questions qui sont percutées dans ma tête.
Mais c'est bien de faire des pauses.
Oui, donc t'avais cette ambition que ça dure longtemps, mais est-ce que t'y croyais? Genre, est-ce que t'étais intimement convaincu que ça fonctionnerait?
Non, parce que, en fait, je crois beaucoup que ces trucs-là, c'est un peu, évidemment, que tu dois être bosseur. Les gens, par exemple, qui durent un peu, c'est forcément des gens qui bossent beaucoup. Mais t'as des gens qui bossent beaucoup qui restent pas aussi, tu vois. En fait, c'est aussi ça, souvent les gens ont un peu tendance à se dire que tout succès ou toute existence est, se justifie parce que y a pas de, je sais pas, pas de talent non récompensé de ça. En fait, t'as un mélange des choses qui existe énormément, et le facteur chance, il existe aussi. Ça veut pas dire que t'as que de la chance. Il faut évidemment que toi tu proposes des trucs et tout.
Tu as tout le talent du monde si t'as pas de chance.
Ouais, à un moment donné, il faut que ça s'aligne quand même. Et moi, ça s'est vraiment aligné. Si un mec au début de 2000, quand je suis arrivé, si trois semaines avant mon premier album, il y a un autre gars qui arrive, qui chante piano voix. Des trucs habillés en noir et tout, enfin tu vois, mais ça aurait été très compliqué d'arriver derrière. Enfin, c'est voilà. Non, je me disais pas ça. Je me disais que moi j'aimais. Et puis en plus, tu sais, c'est quand même un métier qui est pas un métier naturel. C'est-à-dire que s'il y a pas un mec qui invente le micro, on pourrait pas le faire. Donc voilà, un métier naturel, c'est de faire à manger pour des gens, ou de leur apprendre l'école, ou enfin de faire un enseignement. Mais après, t'as plein de trucs dans notre société qui sont des choses qui n'existent que parce que un mec a créé, tu vois, il y a plein de mecs qui bossent, je sais pas, dans les jeux vidéo. Bon voilà, ils doivent toute leur vie à un type qui a inventé le jeu vidéo à tel moment. Moi, je dois toute ma vie à la personne qui a inventé le microphone, parce que j'aurais pas pu chanter à l'Olympia sans être sonorisé. Donc déjà ça fait que le jour où ton métier disparaît, tu te dis aucun problème, c'était juste contextuel dans l'histoire de l'humanité qu'à un moment donné il y a eu ce truc là de pouvoir faire ça, mais c'est pas un dû, et tu vois.
Et genre au début t'as refusé la couve de Télérama?
Sur le premier album, ouais, et l'Olympia, c'était les deux trucs, parce que je me disais quand même ça allait un peu vite, et que justement je trouvais que ça faisait un peu tu sais, quand un album marche beaucoup, même si tu rajoutes juste un mois de tournée, je sais pas, tu as mis ton tableau de 300 000 disques, et puis tu dis, maintenant, je pourrais m'arrêter là, parce que c'est beaucoup, et puis je veux pas faire le syndrome du mec qui en a vendu 300 000, puis après qui passe à 2 000. Mais donc, du coup, quand t'en as vendu beaucoup, 300 000, mettons, si tu rajoutes un mois de tournée, t'en revends tout de suite 50 000, parce que t'es dans un moment où t'es lancé, où tous les médias veulent te recevoir, donc tu peux choisir que des gros médias. Donc, t'as une sorte de logique comme ça, qui est un peu exponentielle. Donc, je me disais, vu que c'était pas du tout ce que j'avais en tête, la façon dont le premier album a existé, et que mes modèles, c'était des gens comme Thomas Fersen ou Franck Monnet, qui étaient des gens qui avaient construit des trucs petit à petit. Je me suis dit, bah non, non, il faut limiter la casse du succès d'une certaine manière, c'est-à-dire...
les vrais problèmes de la vie.
Bah oui, bah, en l'occurrence, je pense quand même beaucoup que oui, si tu fais pas ça, moi je pense que tout mon parcours se sera arrêté il y a longtemps. Parce que tu fais une sorte de truc déséquilibré où tu rends un album hyper successful par rapport à d'autres qui vont l'être beaucoup, beaucoup moins. Et c'est pas très agréable comme sensation. Donc, j'ai bien conscience que c'est pas un... Bah oui, c'était un truc, voilà, c'était une décision comme ça. Et c'était aussi parce que je trouvais que c'était un peu rapide et que d'une certaine manière, je le méritais pas. Comme de faire l'Olympia, c'était pareil. C'était le rêve de ma vie de faire l'Olympia. Donc, mais je me disais, tu fais pas l'Olympia sur un premier disque en ayant que 11 chansons. T'attends au moins d'en avoir 23 pour, même si je chantais aussi d'autres chansons qui n'étaient pas sur l'album. Mais tu vois, avoir un tout petit peu cette épaisseur là, ouais.
Si t'as réalisé ton rêve au bout du deuxième album, du coup.
Oui, ouais.
C'est quoi maintenant?
Enfin, j'ai jamais trop fonctionné comme ça en termes de rêve. Tu vois, c'est un truc qui est marrant. On en parle souvent avec mes gars parce que dans l'urbain, il y a énormément le fait de mettre en scène. J'ai arrêté l'école et puis j'ai fait direct 10 de platine ou ça d'un album de Big Flo et Oli où ils disaient que mes enfants écoutaient. T'imagines la tête de ma mère si on n'avait pas fait disque d'or. Enfin, un truc où finalement, bah, et c'est un des codes de l'urbain, ça, de mettre en scène le succès, l'insuccès, les échecs, le fait que machin a refusé le feat, enfin tout ça. Mais franchement, non, le truc dont tu rêves tout le temps, c'est quand même de sortir un projet qui fait que les gens te disent qu'il est bien. C'est pas d'arriver à remplir telle salle ou. Honnêtement, moi j'adore hein, que ce soit complet. Hein, quelle soit la salle que tu fais, t'es quand même très content. Tu peux pas dire je m'en fiche que ce soit rempli ou pas. T'es vraiment hyper heureux quand on te dit ça y est, c'est complet. Tu fais 3 semaines là et il y a plus de place à vendre. Bah oui, ça te fait plaisir. Mais comme j'ai jamais voulu faire de salle tellement immense que l'Olympia qui fait 2000, c'est ce que je fais de plus grand et je préfère faire 3 semaines de Cigale qui fait, tu vois, 3 semaines de Cigale, ça fait Bercy. Mais ça me plaît plus. Déjà, ça n'aurait pas de sens, d'une certaine manière, pour moi, de faire Bercy. Et puis, ça me plaît plus de me rendre à la Cigale tous les jours, de sortir au métro Anvers, de retrouver la loge. Et puis que la soirée n'ait pas de rapport avec celle d'avant. Enfin, tu vois, cette logique un peu de théâtre, finalement. Donc, non, j'ai pas de rêve de réussite, ça, c'est sûr. J'ai des hantises, c'est-à-dire que les gens soient hyper déçus. Que dire, oh là là, pour l'instant c'était bien, et puis là c'est vraiment pourri là, ce qui vient de sortir. Et après, t'attends les fois où tu vas être un peu content de ton truc. C'est-à-dire, tu vas dire, ah putain, là il y a un petit truc quand même, soit dans cette chanson, dans ce truc, dans ce projet-là, qui te fait vibrer, toi. Ça paraît bizarre de dire ça parce que c'est ton truc qui était censé être un peu extérieur ou un tout.
Ah bon, si ça te fait pas vibrer, toi, ça va faire vibrer personne.
C'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut que ça te surprenne un tout petit peu, toi. Sinon, c'est pas très bon signe. Mais des fois, ça arrive. Hein. Tu fais une chanson et puis pendant une journée, tu t'arrêtes pas de la chanter tellement t'es content. Mais pour être franc, ça arrive pas souvent, malheureusement. Mais heureusement, ça arrive de temps en temps parce que sinon, il y aurait un côté un peu professionnel de la profession, quoi, qui fait ses chansons et puis.
C'est arrivé pour quoi, genre?
C'est arrivé pour À Présent. Je me souviens d'À Présent, la chanson À Présent. Là, plus quand elle était finie. Je me souviens de l'avoir écouté chez moi avec l'arrangement terminé et tout ça. En fait, j'ai écouté tout l'album qu'on venait de finir, qui venait peut-être d'être masterisé, mais peut-être pas. Et l'album finissait par À Présent, et j'écoutais l'album, le reste, ça va. Je disais, ben ça c'est bon, ça va, j'aime bien, j'assume, tatat. Et celle-là, elle m'a vraiment fait un truc. Je me suis dit, ça c'est vraiment une chanson que je voulais écrire, je voulais qu'elle dégage ça, ou Fernando de Noronha. C'est souvent des chansons évidemment un peu perso. Qui te font cet effet-là.
Il
ouais.
y a eu des moments où toi, tu ressentais ce truc de fierté, de vraiment t'aimer ce que t'as fait, et puis les gens, ils n'ont pas suivi.
Pas trop. Bah, déjà, honnêtement, j'ai pas beaucoup de trucs de fierté, parce que toi, des fois, t'es juste content d'une chanson, comme t'es content d'entendre sur l'album d'Albin, de la Simone ou de Florent Marchais, une chanson ou de Jeanne. Une chanson qui te plaît, quoi. Tu vois, t'entends Iliona, c'est moins joli. Tu dis, ah, elle est trop bien cette chanson. Tu l'écoutes en boucle. Tu vois, là, j'ai un projet de photo à Osgore parce que c'est les centenaires de la ville d'Osgore et ils m'ont demandé de photographier des gens de la ville, des anonymes, pour les afficher dans la ville. Et donc, du coup, j'ai passé 2 jours à Osgore. Et c'est là que Cabrel, il vit à côté. Et il a écrit hors saison en se baladant sur... Et là, tu vois, j'ai été sur le front de mer. Il y avait vraiment cette ambiance totalement hors saison, de savoir qu'il avait écrit la chanson à cet endroit-là. Je l'ai mise en boucle 3 fois de suite dans mes oreilles, en étant face à l'océan, devant ces petites baraques fermées et tout. Bah, ça te remue, enfin, ça te fait un truc qui te fait plaisir. Et la chanson, c'est juste ça. Hein. C'est rien de dingue et tu fais pas des chansons pour obtenir le prix Nobel, quoi. Donc finalement, non, j'ai jamais eu ce truc de me dire, alors là, je serais hyper déçu si les gens ne... Après aussi, tu t'évolues avec les années. C'est-à-dire, quand tu commences, monsieur, une dame qui vient me voir, qui me dit, moi, ce que vous faites, ça me fait penser à Bernard Lavilliers. Bah, je lui avais dit non, quoi. Enfin, je lui avais dit, bah non, c'est bizarre que vous disiez ça. Je trouve que Bernard Lavilliers, c'est plus ci et ça, tatatat. Bah, maintenant, si on me dit ça, je dis, bah, carrément, je comprends. Enfin, tu vois, en fait, toi, tu proposes un truc, mais c'est tellement soumis à une interprétation perso, à une manière de filtrer les choses. Qui n'appartient qu'aux gens, que tu vas pas t'amuser à leur dire non, vous, ce que vous ressentez, ce n'est pas ça, c'est ça, tu vois.
Tu peux prendre ça comme dans n'importe quelle œuvre, quand les gens accrochent moins, bah, comme un peu un rejet de ta personne, quoi. Parce que tu mets tout ce que tu as de toi et les gens, ils accrochent moins.
J'avais ça un peu au début de me dire ça, de me dire finalement, quand tu parles de trucs qui sont très ta vie, c'est sûr que, par exemple, sur Les Amants Parallèles, ça aurait pu me faire ça qu'un disque que j'avais fait. Qui traite d'un couple sur une dizaine d'années. À l'époque, quand je l'ai sorti, je disais que bah, c'était un peu inspiré de mon couple à moi et puis d'autres trucs extérieurs, parce que un peu pour me couvrir, mais en fait, c'était que mon couple à moi. C'est-à-dire, il y a pas un mot dans ce projet, je pense, qu'il soit pas des trucs que moi j'ai vécu et tout. Donc là, effectivement, si les gens disent, oh, ça a l'air un peu triste ton couple, enfin, cette histoire, machin, honnêtement, moi je suis assez. C'est pas que je suis assez imperméable, mais je suis quand même assez costaud sur ces trucs-là. Déjà parce que je suis assez positif aussi. C'est pareil que je te disais tout à l'heure, un peu l'écart qu'il peut y avoir des fois entre ce que tu dégages et ce que t'es vraiment. Moi je suis vraiment quelqu'un qui voit quand même beaucoup le bon côté. J'ai bassiné mes enfants avec ce truc-là en permanence. Que si t'es pas comme ça, t'as toutes les raisons de chouiner en permanence. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs super sur Terre, il y a plein de trucs vraiment dégueulasses. Donc, si tu te, t'as vite fait de, ouais, c'est comme des sables mouvants, tu te laisses porter par la pente négative. Il y a pas de, je dis pas que c'est mal, hein, parce qu'il y a vraiment des raisons. Donc, les gens qui disent, moi, je fais pas d'enfants, parce que je veux pas mettre quelqu'un dans cette société, bah, je comprends. Mais moi, j'ai fait des enfants. Et voilà, c'est comme ça, on est tous différents là-dessus. Donc j'ai jamais eu ce truc d'être complètement abattu par, déjà parce que aussi j'ai ma culture, c'est un grand mot, mais enfin disons que les gens que j'ai pu aimer, c'est des gens qui ont traversé leur vie en faisant des projets qui, mais ça peut être un peintre, un photographe et tout. Des fois ça a marché, à d'autres moments ça marchait moins, mais ils ont pas déjoué. Ça, c'était vraiment un truc qui comptait beaucoup pour moi, cette idée de, tu sais, ça va vite, t'as un truc qui prend un peu moins, tu dis, ah, faut refaire un clip, bah, c'est quoi les clips en ce moment? Ah bah attends, on a qu'à faire comme machin qui a fait ça dans son clip. Je dis, mais oh les gars, non, on va pas... Il faut tout le temps proposer un truc qui appartient qu'à toi, qui est évidemment, qui se nourrit d'un parfum de l'époque en termes de production musicale, en termes de tout, mais quand même, qui garde... Et ça va vite de déjouer, parce que par exemple quand t'enregistres un disque, dès que ta chanson elle commence à ressembler à un truc qui est en train de cartonner à ce moment-là, ton premier réflexe c'est de dire, ah c'est marrant, on dirait un peu justement tel tube et tout, mais en fait ça veut dire que non, il faut surtout pas aller là et qu'il faut tout réeffacer, repartir de zéro et proposer ton truc à toi qui va à sa cadence mais qui sera quand même toujours assumable par toi dans quelques années après. Ouais.
Et comment tu fais pour chaque album, chaque spectacle, réinventer quelque chose de nouveau, mais tout en restant dans ce que t'aimes, dans ce que t'es, sans lasser les gens. Enfin, l'équilibre est difficile à trouver, j'ai l'impression.
Bah, en fait, t'y passes du temps. En fait, c'est que ça, parce que si tu faisais ça en te disant, bon, aujourd'hui, là, on est mercredi, et cet après-midi, je vais brainstormer pour trouver comment rester moi-même, tout en amenant un truc et tout, bah, tu n'es jamais sérieux. Donc, par contre, à bosser là-dessus, c'est-à-dire à proposer des trucs, à chercher des idées pendant un vrai temps, et après avoir du recul et aller regarder, là, pour le coup, en les posant sur une table et en se disant « bon, ça, c'est quand même pas terrible. Ça, oui, pourquoi pas, mais ça pourrait être mieux peut-être autrement. » Et aussi en parlant, moi, je suis avec quelqu'un avec qui je peux parler de ça, parce que on a tous quand même des formes de, pas de certitude, mais de des trucs où on pense que telle idée va être bien, et des fois la personne face à toi va te dire je suis pas sûr, et toi tu dis ah non mais t'inquiète pas, je suis sûr. Et de fait tu peux être sûr de certaines choses. Il y a d'autres moments quand la personne émet un doute, et bah tu te dis ah ouais c'est vrai que c'est peut-être pas fou, mais c'est pas facile parce que c'est un peu le bout de salade dans les dents. C'est-à-dire que tu sais que la personne, elle va pas t'en vouloir un peu, mais que ça t'éloigne un peu d'elle le moment où tu dois formuler ça. Mais dans un deuxième temps, peut-être ça peut te rapprocher d'elle, parce que si elle rentre chez elle et qu'elle a toujours le morceau de ça dans les dents et qu'elle se dit putain, j'ai passé tout le déjeuner et on me l'a pas dit, bah quand tu fais des trucs, c'est un peu ça. C'est-à-dire que t'es quand même très à fleur de peau parce que c'est un peu artistouille, c'est un peu une chanson qui parle de ta vie, machin, nana. Puis toi, sur le moment, t'étais trop content quand tu l'as fini. Donc si on dit ouais, elle est pas mal, mais sans plus. Enfin, on dit pas sans plus, on dit ouais, elle est pas mal. Enfin, déjà ça t'énerve, quoi. T'as envie qu'on dise que c'est génial, que c'est ah là là, c'est trop émouvant. Et ça, c'est un risque. Et c'est pour le coup, c'est un risque aussi par exemple d'Instagram où à un moment donné, tu vois les commentaires des gens. C'est toujours parce que les réseaux sociaux, c'est violent en termes de se faire bâcher, mais c'est aussi violent en termes de se faire trop lécher la pomme aussi. C'est-à-dire que t'as toujours des gens qui vont dire ah, elle est trop belle ta pochette, oh, j'adore. Enfin, faut faire attention à ça parce que c'est un peu piégeux, et c'est comme les gens qui quittent une salle de concert parce qu'ils s'ennuient. Finalement, tu les entends pas trop, quoi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir peu de gens autour de toi qui sont un peu des référents là-dessus et sur qui tu peux compter.
Vu que ça a démarré très fort, ta carrière, la victoire de la musique, les ventes et tout, pour le deuxième, t'étais dans quel état d'esprit ?
Ouais, j'avais un truc que j'aimais bien pour le deuxième, c'est que je me suis toujours dit ça. Je me dis, putain, Goldman, je ne me compare pas à Jean-Jacques Goldman. Hein, je
il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que Goldman ferait ?
Mais je me disais, ça doit être génial quand t'es Goldman et que tu fais l'album entre éclair et gris foncé, avec par exemple, elle a fait un bébé toute seule, qui c'est comme chanson, et de savoir que de toute façon, c'est une chanson qui va passer en radio, parce qu'il sort d'un tel truc. Que, en tout cas, au moins la première chanson qu'il va envoyer comme single, elle va exister. Ce qui n'est pas du tout, évidemment, une certitude jamais. Enfin, c'est une certitude que pour des gens qui cartonnent. Moi, j'étais a priori pas du tout taillé pour être dans cette catégorie-là. Donc, ça, c'était super de se dire au moment du deuxième disque que Les Filles de 73, par exemple, était une chanson qui allait passer et qui allait exister un minimum et qu'elle avait une sorte de minimum de vie garantie, tu vois. Mmh. Et ça, c'est rigolo parce que, oui, tu fais ta chanson et puis après, au-delà de ça, cet album, c'était agréable de le faire parce que je savais qu'il allait être bon entendu par tu vois qu'il y aurait des médias qui s'y intéresseraient forcément puisqu'on avait parlé du premier. Donc toute forme de succès te libère d'une idée qui est, si ça se trouve, il y a peut-être des gens qui pourraient bien aimer mais qui n'en entendront jamais parler, parce que ça, c'est sûr que ça existe dans la musique, des trucs qui sont chouettes qui auraient, mais en fait qui n'ont pas trouvé ce qu'on appelle trouver son public. Ça, c'est un souci que t'as moins une fois que t'es identifié, et si t'es identifié très tôt, parce que évidemment qu'il y a un gros succès, toujours un malentendu, des gens qui t'aiment pour des mauvaises raisons, qui vont disparaître ou qui vont s'éloigner. Mais tu trouves aussi quand même le noyau dur des gens qui vont te suivre. Donc moi, après, il y a des gens maintenant qui débarquent dans ce que je fais, qui sont arrivés depuis un album ou deux. Mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont là depuis le début. Tu vois, j'ai vu là, en fait, en les 20 ans à l'Européen. Bah oui, que ça... Il y a ce noyau-là, et c'est chouette parce que c'est comme d'avoir comme des amis d'enfance, quoi, d'une certaine manière. C'est comme des gens qui t'ont accompagné dans pas mal d'étapes différentes, des fois qui ont lâché, des fois qui vont dire ah oui, à un moment donné, j'écoute un peu moins, puis je suis revenu, puis voilà.
C'est quoi le truc le plus important que t'as appris sur ces 20 ans?
Je saurais pas dire. C'est vrai que je raisonne pas beaucoup comme ça en général, mais après, ça, j'aime bien réfléchir à des questions que je me pose pas d'habitude aussi. Bah, je sais pas. Je dirais quand même. Là, je parle pour la partie chanson et tout ça, que finalement, le truc qui m'a fait le plus plaisir, c'est de m'être embrouillé avec très peu de gens. ouais, mais c'est bête, mais c'est un gros truc quand même, parce que quand ça fait les gens avec qui travaillent sur des albums, après, ça veut dire que t'as arrêté de travailler avec eux sur des albums parce que t'as bossé avec d'autres gens, donc t'as toutes les raisons qu'il y a une petite distance, et si ce n'est se fighter ou se fâcher, ça peut être juste et là, tu vois, à l'Européen, c'était ça qui était hyper fort quand on a fêté les 20 ans, c'est que on est resté un mois, il y avait des invités tout le temps, ou enfin des gens dans la salle, et c'est aussi, c'est pas que moi, c'est une force du label Tôt ou Tard aussi, d'être, de rester très très régulier, d'avoir une sorte de voilà, c'est un mot galvaudé, mais quand même de famille, de gens qui sont, qui gravitent autour de tout ça. Et donc ça, c'est un truc que j'ai aimé. Après, je pensais vraiment, quand j'ai commencé, je savais pas comment, autant je me disais, tiens, j'aimerais bien faire les choses les unes après les autres, pouvoir faire des spectacles différents et tout. Mais la valeur boulot, en fait, je la voyais pas si grande que ça. C'est-à-dire que je me disais, il faudra quand même... Par exemple, je me disais, bon, il faut lire beaucoup de bouquins, écouter beaucoup d'autres gens, aller voir beaucoup de films, aller voir des spectacles, se nourrir beaucoup des autres pour arriver à créer. Et c'est un peu vrai, parce que si t'arrives pas à être disponible pour autre chose que tes trucs à toi, et c'est pas bon, et puis c'est super. C'est Aznavour qui disait ça, qu'il aimait un spectacle quand il pouvait chourer trois idées pour son spectacle à lui. Et c'est un truc qu'on a, quand on fait des spectacles, on va voir des choses, des fois on se dit, ah attends, mais ça peut-être on pourrait l'adapter autrement et tout. Mais ouais, le truc de d'y retourner, quand je parle du boulot, c'est pas le boulot pour le boulot, parce que ça on s'en fout, quoi. Enfin, c'est moi je trouve pas ça génial, l'idée de travailler, c'est pas une valeur que j'ai ancrée en moi, si ce n'est que au bout d'un moment c'est le seul moyen, comme on fait quand même beaucoup de trucs pas bons, de faire tellement de trucs qu'à un moment donné il y en a des un peu plus des pas mal, quoi, tu vois. Et parce que sinon, si tu te dis juste je vais faire 10 chansons et puis bon, elles vaudront ce qu'elles valent, bah jamais ça marchera, parce qu'elles vont trop ressembler à des trucs que t'as déjà fait ou à d'autres chansons de d'autres gens. Et puis aussi quand t'apparais, t'es quand même un peu excitant parce que t'es un peu nouveau, alors que quand ça fait un moment que t'es là, c'est comme un vieux couple, il faut trouver, faut être très vivant pour que ça tienne un peu la route, et donc proposer des choses. Et ça a été super pour moi depuis 10 ans de justement de pouvoir faire un film, faire des photos et malaxer des trucs qui font que tu rencontres d'autres gens, que ça te régénère un peu, et puis que le truc est toujours en mouvement. La hantise que t'as quand tu sors un album aussi, t'as le public, mais même ça c'est pareil, c'est un truc dont personne va te parler parce que tu parles pas de ça en général, mais les médias, des fois je me dis, on pose ton disque sur le bureau d'un journaliste, il faut faire partie de la catégorie, pas pour obtenir un super papier, mais juste comme un signe d'existence vivante, il faut que la personne se dise, tiens, je suis curieux de l'écouter. Il y a des gens dans la musique, tu sais très bien que les programmateurs radio ou machin reçoivent le disque et qu'ils disent, ah, c'est bon, ça va, j'ai compris. Tu vois, et ça c'est un peu tarantiste quand tu fais des trucs, c'est que les gens te disent, bon, bah, ça va, j'ai compris.
Du coup, pour un album de 10 chansons, t'en écris combien, genre ?
Bah, en fait, pour un album de 10 chansons, t'en écris pas tellement plus que 10, t'en fais 12, mais par contre, tu fais 50 débuts de chansons. Parce qu'en fait, les chansons auxquelles il manque un truc, tu les arrêtes en cours de route. C'est rare que tu les finisses. Enfin, tu vois, ça se finit. Le moment où tu te dis, ah non, cette chanson, il y a un truc qui cloche. C'est rarement le moment où elle est complètement finie, et évidemment encore moins le moment où elle serait complètement finie puis complètement orchestrée et enregistrée en studio. Donc des chansons vraiment qui ont été jusqu'au bout du processus, qui ont été orchestrées et que t'abandonnes, il y en a finalement assez peu, tu vois. Je m'en suis rendu compte là sur le projet des 20 ans, puisque à chaque fois on essayait aussi de chercher sur chaque album les chansons qui avaient été mises de côté justement en allant au bout du process. Et t'en avais, oui, une par album. Mais par contre, des débuts de trucs, ah bah oui, là, c'est, je te ferais écouter les mémos vocaux dans le dictaphone, quoi, dans le téléphone, c'est l'horreur, parce que t'as tout le temps des départs, et enfin, c'est pas l'horreur d'ailleurs, c'est bien. C'est comme si, je sais pas, je trouve pas de comparaison, mais de métaphore pour ça, mais en tout cas, ça fait partie du truc, quoi. De toute façon, pour finir là-dessus aussi, dans la mesure où moi je suis pas quelqu'un qui se met au piano pour en se disant bon voilà, j'ai un album à faire, je vais au piano, et que j'en fais peut-être pas tous les jours mais pratiquement, et que bah tous les jours tu démarres un début de mélodie ou un truc, évidemment qu'il y en a beaucoup qui passent à côté.
Ta façon d'écrire et de composer, elle a évolué?
Ça c'est, en fait j'ai jamais eu trop beaucoup de recul sur l'écriture et sur tout ça, parce que finalement tu vois, par exemple, je me suis rendu compte là en retrouvant des vieux trucs, des vieux brouillons des premiers disques, mes premières chansons je les écrivais souvent sur 2-3 pages maximum, quoi, alors que maintenant ça peut vraiment être beaucoup plus long, quoi, un cahier par chanson mettons. Mais et donc en fait
t'écris quoi dedans alors?
Si c'est dans le cahier, tu reprends ta chanson. Souvent, tu te dis bon, là, tu as les deux premières phrases. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il faut trouver la troisième. Bon, bah, t'en écris une troisième, tu l'arrêtes, t'en écris une deuxième, troisième, une troisième, troisième, quatrième, troisième. Bon, vraiment, il y a beaucoup de rayures sur ta page. Tu dis bon, ok, je reprends sur la page d'à côté. au propre. Et donc souvent tu remets un truc qui avance très peu parce que qui se nourrit juste d'une mini évolution qu'il y a eu. Donc et puis après il y a aussi évidemment des couplets entiers qui sautent, mais finalement ça s'arrive assez peu. C'est plus que tu tournes autour d'une manière de dire le truc et qui va être le plus fluide possible. Et c'est ça qui est excitant dans la chanson. C'est aussi les gens qui ont une écriture, en tout cas moi c'est ça qui m'attirait, qui te donne l'impression que c'est très naturel. Et en fait toi tu te prends beaucoup la tête avec chaque mot.
L'impression qu'il n'y a pas de travail derrière, quoi.
Ah oui, ça a toujours beaucoup compté pour moi. Pareil pour la scène, je voulais arriver sur scène, m'asseoir au piano, de l'impression, le mec, est-ce qu'il a appris à jouer du piano, on sait même pas. Tiens, il y a une vidéo qui part dans son dos, il donne l'impression que limite il l'a subi. Alors qu'évidemment, c'est un truc que t'as fixé toi au millimètre et machin, mais j'aime bien ce côté, parce que finalement, c'est un côté personnage de Sampé, quoi. T'es au milieu de plein de trucs qui font partie de ta vie, mais que t'as l'air de pas avoir choisi toi-même. Et ça, oui, ça compte beaucoup pour moi. Il y a vraiment toujours eu ce truc de, ça c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais que d'une personne qui était venue me voir dans la rue au moment du premier disque, qui m'avait dit, mais voilà, c'est ça. On a besoin d'albums comme ça, écrits en une journée. Et je m'étais dit, ouais, putain, je m'étais dit, bah, finalement, c'est sympa aussi, quoi. C'est-à-dire que la personne, j'ai presque trop réussi le truc que je voulais, c'est-à-dire donner l'impression que, voilà, quoi, tu fais ça de manière très, très simple. Et d'une façon générale, on parlait de l'attraction-répulsion sur les branleurs, mais t'as ça aussi sur les chansons. C'est-à-dire que les gens sont très fascinés par l'idée que des fois une chanson de Charles Trenet, La Mer, est écrite sur une nappe en un quart d'heure et que ça va lui rapporter 12 millions d'euros, enfin j'en sais rien, tu vois. Et en même temps, ça les énerve. Mais en même temps, ils aiment bien cette mythologie-là. Sauf qu'en fait, bah, l'histoire des nappes en papier ou de Picasso qui paye en... Enfin, ça n'arrive jamais, enfin, c'est peut-être arrivé deux fois, mais les chansons, ça se fait pas comme ça. Enfin, mais ce qui est bizarre, c'est que souvent les gens veulent savoir comment tu fais, ou filmer. Par exemple, souvent, t'as le truc, on a un projet de documentaire, on voudrait vous suivre dans la création. Tu te dis, ouais, mais attendez, la création, c'est un peu rien, quoi. Moi, je suis chez moi, je vais passer 2-3 heures, à un moment donné, je vais me faire un café au milieu, je vais passer d'un piano à un autre clavier, mais il n'y aura rien de spectaculaire, quoi. Donc, il n'y aura pas de moment où il va y avoir un jaillissement de 15 phrases de suite où je vais gratter le papier. Oui, on sait. Sauf que, bon, bah, du coup, ils viennent, il ne se passe rien, et ils disent, ouais, est-ce que ce serait possible, là, de réécrire ? Ils disent, bah, non, mais les gars, soit vous voulez filmer. Et Mathieu Bogart, ça avait fait un projet comme ça, qui était où il s'était filmé, lui, sur l'écriture de son album Michel. Et en fait, c'était hyper. Moi, c'est le document de création que je trouve le plus juste que j'ai vu. C'est-à-dire que c'est exactement comme ça. C'est-à-dire, il se passe pas grand-chose. Le soir, des fois, il se filme. C'est vraiment un peu ingrat. En plus, il se filme. Des fois, il s'avantage pas beaucoup. Et il dit, ah là, je suis déprimé. J'ai rien trouvé. Puis le lendemain, il dit, ah, je suis hyper content. J'ai trouvé ces trois mots-là. Donc, évidemment, les gens qui ont vu ce truc-là, ils ont dit, bah. C'est quoi ce truc là, quelle branlette, quoi, de mec qui est content d'avoir fait trois mots ou déprimé. Mais sauf que oui, de fait, c'est comme ça. Mais c'est pour ça que c'est pas très intéressant à suivre en vrai et voilà.
Toi, tu te dégages des moments où tu te dis ok, là, je dois bosser sur quelque chose, ou tu notes des trucs de temps en temps.
Non, en fait, faut organiser des journées entières où t'as rien. Parce que ce qui marche pas, c'est de se dire bon bah je vais pouvoir bosser un peu sur mes trucs. Jeudi entre 16 et 17h30, non, faut avoir une journée devant toi et après il y a différentes choses. Quand je travaille sur mes photos ou des trucs comme ça, bah ça pour le coup si tu peux le faire sur des, il y a plein de boulot d'ailleurs dans ce que j'ai à faire où je sais que je peux avancer sur un moment précis.
Où il y a un début, une fin, ouais, voilà. Une tâche, quoi.
Mais par contre, tout ce qui est de l'ordre de genre, bah là, ce matin, j'ai rien, puis j'aimerais bien mettre en place un truc qui va arriver pour ce soir ou pour demain soir, ou bah ça, il faut qu'il y ait rien, il faut qu'il n'y ait pas de déjeuner au milieu, ou tu vois un pote qui va te dire mais alors, en ce moment, tu travailles sur quoi ? Et puis du coup, t'es obligé de formuler un truc qui est même pas commencé complètement, enfin tu vois, et ça, c'est... Il y a un peu une phase, oui, sauvageon solitaire, qui est pas facile à organiser, parce que finalement, on a tout le temps des trucs. Alors oui, je sais, c'est le problème de riche aussi, mais ça va très vite, surtout aujourd'hui avec la crise économique, où tous les médias ont toujours plein de...
plein de succursales, quoi. Tu vois, tu fais une émission de radio, mais ils vont te dire derrière, ce serait super si en rentrant chez vous, vous pouviez nous envoyer un Polaroid que vous avez fait sur le trajet du retour. Et puis, on a aussi une version podcast. Puis, on a aussi un truc, un petit module vidéo. Puis, est-ce que vous pourrez faire un liner aussi en fin de semaine pour nous? Et là, tu te dis, ah oui, mais on a fait une promo là où on faisait un truc avant. T'arrivais, tu partais, c'était fait. Là, maintenant, ça, c'est pour avoir un peu du plus produit en permanence. Ce qui se comprend, parce que nous-mêmes, quand on fait des albums et tout, tu cherches tout le temps à faire un truc un peu plus. Mais il faut faire gaffe à ça, parce que c'est rarement des trucs hyper qualitatifs, quoi, parce que ça ne te pousse pas dans tes retranchements. Et voilà, donc à un moment, il faut arriver à organiser les choses pour justement avoir le temps de présenter un vrai truc où tu es enfermé dans ta chambre, et à un moment donné, tu ouvres la porte en disant « bon, bah, ça y est, c'est prêt, j'ai un truc à vous proposer, je me suis enfermé pendant un an et il faut disparaître un peu aussi. »
Et comment tu fais pour t'enfermer, être un peu dans ta tête et tout, quand tu as deux enfants et genre...
Ah bah ça, si, déjà, ils sont scolarisés quand même, donc je te remercie. Donc, au contraire, ça, c'est... Après, tu perds... Dès que t'as des enfants, tu perds le vertige, oui, du soir et de te faire un spritz que tu mets sur le piano à partir de 18h30 quand la lumière tombe et que tu y passes toute la soirée. Ça, cette zone-là, elle s'en va. Mais c'est pas complètement grave. Alors c'est grave en termes un peu d'un certain plaisir, parce que c'est agréable de faire ça et ce moment-là. Mais par contre, souvent, les trucs que tu fais en journée... qui tiennent la route, ils sont plus valables que les trucs de la nuit, parce que la nuit, justement, il y a une sorte de truc un peu, tu te laisses porter,
t'es un artiste maudit,
voilà, t'es un artiste maudit, tu trouves que tes accords ils sont trop beaux parce que justement ton spritz était bien chargé, donc tu t'es laissé trop porter. Et mais voilà, donc mon amoureuse, elle travaille la journée, mes enfants ils partent bosser aussi, donc j'ai tout ce temps là pour moi. Et puis c'est aussi voilà, en fait, finalement, sur le papier, quand tu dis ça, ça paraît un peu faux de dire bah, c'est un métier comme un autre, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que même le côté créatif et tout, à partir de rien, bah, mettons que demain, par exemple, je fasse, j'ai une journée pour ça. Bah, moi, j'adore me balader dans Paris, me dire tiens, je vais marcher, je sais pas, au parc Montsouris, alors que j'habite Belleville, traverser la bouffée dans un... Mais en fait, je vais pas y aller parce que je vais bosser chez moi pour trouver quelque chose. Et à la fin de la journée, j'aurai rien trouvé. Donc, je vais me dire, bah, putain, c'est con, j'aurais vraiment mieux fait d'aller sillonner Paris. Mais en fait, non. Il faut s'astreindre à un truc comme ça, d'une forme de travail, quand même.
Et t'arrives à, vu que dans la création et tout, il n'y a pas vraiment de but précis pour chaque jour, comment tu fais pour arriver à avancer?
Bon, c'est pour ça qu'il faut être régulier. Puis après, c'est, tu vois, par exemple, je te parlais du truc que j'ai été faire à la Osgore où je fais des photos des gens. Bon, bah, j'ai vu tous les trucs. On a mis en place les trucs, les sessions photos. Puis après, j'ai dîné avec les gens de là-bas. Puis à 23h30, t'es dans ta chambre d'hôtel. Là, tu vois qu'Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale. Et moi, j'ai un de mes fils qui a vraiment eu toute une histoire avec lui, qui a adoré Hugo Lloris, qui a voulu lui envoyer un dessin, qui voulait trouver son maillot qui était introuvable. Qu'on avait trouvé qu'une boutique quand on avait été à New York, qu'il vendait, machin, nan, nan. Donc, je me dis, et on avait envoyé un dessin, j'ai récupéré une vidéo, j'avais filmé mon fils quand il recevait la vidéo du Lloris dédicaçant. Je me dis, je veux faire un post là-dessus, mais sur Instagram, parce que j'aime bien Instagram pour ça, parce que ça permet vachement d'accompagner la vie et des fois de faire un truc très laconique où tu fais juste exister une photo que t'aimes bien, que t'as faite la veille. Et puis, des fois, il y a un truc plus long, comme un journal de bord. Mais dans ces cas-là, faut le faire sur le moment. Donc, Lloris, il venait d'arrêter là. Je me dis, il faut que ce soit demain matin. Je veux le faire demain matin. Donc, j'ai écrit mon truc jusqu'à 1h du mat. Mais après, j'ai mis un réveil à 7h parce que comme j'étais à Osgore, je me suis dit, ce serait bien quand même que j'en profite pour aller filmer à l'océan des plans avec mon appareil. J'avais pris un pied et un appareil avant de commencer la journée de boulot. Donc, en fait, finalement, les projets s'empilent. Tu te dis, tiens, il faut pas louper l'occasion de ça parce que là, on est en train, t'es dans telle situation, tu vois, là, je suis avec toi.
Là, c'est une commande.
J'ai mon app. Osgore, oui. Mais ce que je fais, les trucs que je me rajoute, c'est aussi des trucs, bah, pas Lloris, mais le truc de filmer, c'est au cas où. Je sais pas ce que je vais en faire de ces plans. Si ça se trouve, je vais rien en faire. Mais il y a même des bonnes chances que j'en fasse rien. Mais ce serait trop con de pas profiter d'être là-bas pour faire ses plans, de pas se lever au moment où le soleil se lève et tout ça. Mais là, tu vois, je viens te voir, bah j'ai mon appareil, même pour filmer, au cas où il y a un truc à filmer sur la route. Enfin, donc c'est une sorte de logique un peu mentale en fait, et qui est pas mal parce que tu lâches jamais le truc, quoi. T'as pas des moments où t'es là à dire bah en fait c'est con, là j'ai plus rien à faire à part manger des Pringles. Donc t'as tout le temps un truc qui te tient. Et voilà.
Mais c'est pas épuisant?
Non, parce que comme tout le monde travaille. Mais justement, ça te met dans une forme de norme. Enfin, t'es pas plus.
Mais quand tu fais 8h, 18h, ou les horaires de bureau.
Bah oui.
Mais là, toi, tu t'arrêtes jamais du coup.
Oui, ça, c'est sûr que par contre, ça t'accompagne. Mais ceci dit, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont un boulot qui les accompagne aussi. Des fois un peu de manière un peu pas forcément très facile d'ailleurs la nuit moi c'est enfin oui ça s'arrête jamais mais c'est ça reste quand même hyper agréable d'avoir à malaxer tous ces éléments là de se dire que tu veux mettre un peu en relief la vie essayer de voir aussi parce que c'est quand même un enjeu aussi hyper important aujourd'hui où tout le monde est d'accord que la société est quand même assez malade, qu'on est dirigé par des gens qu'on adore pas, que les coupes du monde ont lieu au Qatar, que enfin Il y a quand même beaucoup de raisons de pas trouver ça fantastique. Or, quand t'as des enfants notamment, et puis même, je sais pas pourquoi je m'abrite derrière ça, parce que je pense que je serais exactement pareil sans ça. Je me dis, il y a des gens, il faut aussi quand même des gens qui sont un peu des vendeurs de vitamines. C'est-à-dire que, vendeur étant pas le mot là, parce que, en l'occurrence, c'est le truc que tu fais sur Instagram, qui est l'endroit où j'essaie justement d'avoir des vitamines. Et pas un objet vendu, mais des gens qui apportent un truc qui te fait te dire ah ouais en fait c'est quand même pas mal la vie, il y a quand même un truc qui peut être touchant, qui peut être beau, qui peut être esthétique aussi, donc des fois tu rates là-dedans, mais moi je sais que ça compte pour moi qu'il y ait des gens autres que là je parle pas de moi, qu'il y ait des gens qui m'alimentent en vitalité, en manière de voir les choses un peu. Ça veut pas dire que tu vois les choses de manière hyper positive et hyper optimiste et tout, mais juste que tu essaies quand même de choper un peu des éclats de lumière dans ce qui t'entoure. Parce que si tu décides de n'aller que sur le terrain de la chouine et de dire ouais, franchement, là, Macron, oui, évidemment, Macron, ça ne va pas. Mais on est tous d'accord là-dessus et je ne vois pas vraiment ce que ça va donner comme énergie aux gens que moi, j'aille là-dessus.
Et qu'est-ce qui te donne, toi, ces moments de lumière? Qu'est-ce qui t'apporte ça?
D'être d'autres gens, tu vois, je te parlais d'Albin, ça peut être des amis qui font des choses, et c'est d'ailleurs un peu plus délicat, d'ailleurs, quand c'est des amis à toi, et que t'écoutes leurs projets, tu te dis, voilà, putain, pourvu que j'aime bien, mais ça me rend hyper content, les gens autour de moi qui créent des trucs, mes parents, par exemple, qui sont créateurs, ils ont toujours... m'ont toujours dit ça quand j'étais plus jeune, le moment où je vivais encore avec eux et où je faisais déjà des trucs un peu soit de la musique soit d'autres choses du théâtre et tout, et ils disaient nous c'est marrant la maison il y a un truc on sent quand on est tous les trois dans une pièce différente à bosser sur nos trucs c'est comme si la maison elle respirait mieux quoi, il y a un truc de d'énergie consacrée quoi, parce que tu filtres, t'es comme une carafe d'eau qui filtre le calcaire quoi, tu c'est pas menti ce que tu montres, mais c'est filtré. C'est là aussi la théorie de Truffaut sur que les films sont comme des trains dans la nuit parce qu'il n'y a pas d'embouteillage dans les films, alors que dans la vie il y a des embouteillages et que les films, même si les films de Truffaut essayent de montrer la vraie vie, c'est une sorte de vie améliorée dans la mesure où elle avance. Voilà. Moi je crois beaucoup à ce truc-là.
Toi tu filtres aussi beaucoup dans tes chansons.
Tu filtres dans le sens, dans la mesure où même un truc qui va, même si tu dois mettre en scène une tristesse, un chagrin ou un ennui, t'essaies de le pousser à son paroxysme de l'ennui ou la tristesse à son paroxysme. Enfin, tu vois, tu fais un effet loop pour que ça ait un intérêt. Donc oui, c'est une forme d'organisation d'une matière qui est une vraie matière au départ, mais que t'organises. Parce que sinon, si tu fais juste un témoignage de ta vie comme ça, sans style, sans épuré, sans organisation, c'est ce que te demandent de faire les psys quand ils disent écrivez un peu là ce qui vous soucie en ce moment. Ça ennuie tout le monde et ça fait envie à personne.
Et comment tu sais que quelque chose vaut la peine d'être raconté?
Je sais pas si quelque chose vaut la peine d'être raconté avant que ce soit raconté, avant que ce soit fini d'être écrit. Parce que moi j'aime pas trop les sujets, j'aime pas trop les histoires, j'aime bien les ambiances, les sensations, des trucs comme ça. Donc l'enjeu, je me dis jamais oh là là, cette histoire elle est géniale, là tout le monde va se régaler. Après, pour être franc, justement, il y a quand même aussi une différence entre par exemple ce que tu mets sur Instagram et ce que tu mets, ce qui fait faire l'objet d'une chanson. Et d'ailleurs, Des fois, tu mets un truc sur Insta et les gens te disent « Ah bah ça pourrait faire une chanson. » Ah, tu te dis « Bah non, je vais pas faire une chanson sur le fait que mon fils a envoyé un dessin à Hugo Loris. Ça ne va pas fonctionner comme ça va mal résister aux années. » Mais donc voilà. Donc là, de temps en temps, c'est vrai que si je t'avais dit ça pour être franc, tu sais que une histoire aussi peut passer sur Instagram parce que tu racontes un truc et tu te dis « Bon, je vais bien réussir à le mettre en forme. » Mais en chanson, non. Ou en film ou en théâtre, non. Parce que ça dépend vraiment de ce que ça devient. La même histoire peut devenir hyper lourdaude. Et les gens souvent croient beaucoup au sujet. Ils vont te dire « Ah ouais, tiens, c'est un bouquin, ça parle de quoi ?» Bah en fait, si ça parle d'un mec qui est dans un appartement avec sa copine durant tout le bouquin, ça va rien dire du livre. Parce que ça dépend vraiment comment c'est gaulé, comment c'est écrit. Et le style joue énormément. Et ça joue beaucoup sur les gens aussi. Les gens sont très sensibles au style, mais ils s'en rendent pas forcément compte. Ils ont l'impression que ce qu'ils aiment bien, c'est l'histoire. Ou... Tu vois, je me souviens d'avoir vu un chanteur quand j'étais étudiant à Rouen. On était toute une bande de gens qui étaient très fans de Barbara, par ailleurs. Et on a vu ce chanteur, et qui était tout seul, je ne dirais pas son nom, que moi j'avais vachement aimé, en plus son spectacle, et il avait juste un pianiste. Et tout le monde est sorti en disant ah, « C'est pas possible, c'était trop... tout ce qu'il raconte, c'est trop triste. » J'ai dit « Mais non, mais ça, c'est parce que ça vous a pas plu. Enfin, c'est parce que ces chansons, sa manière d'écrire, vous avez pas aimé ça. Parce que c'est pas parce que c'est triste que vous avez pas aimé. Parce que vous adorez Barbara, et Barbara, c'est triste. Mais Barbara, vous trouvez ça super parce que bah, la façon dont elle organise sa tristesse, ça vous touche et ça vous plombe un peu moins, du coup, parce qu'il y a une sorte de charme de ça. Donc... Mais c'est difficile d'avoir conscience de ça. T'as toujours un peu l'impression que t'as pas aimé un film parce que ça parle de ça ou tout ça. Tu te dis rarement que c'est parce que telle scène de café a été filmée comme on en a déjà vu 40 000 fois. Enfin, tu vois, le style est difficile à analyser.
Et toi, comment tu travailles le tien ? Est-ce que c'est un truc conscient ou c'est juste non. Ta façon d'analyser qui fait que tu retranscris comme ça ?
Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le fait de bosser à l'infini, c'est que finalement ton style il avance pas malgré toi, mais il avance un peu avec toi, c'est à force de faire des choses. En photographie par exemple, c'est très net, parce qu'en photo tu pourrais te dire la photographie c'est un point commun avec l'écriture là-dessus, c'est que les gens ils vont te dire ah non mais moi j'écris pas bien ou ah bon moi je sais pas faire de photo, enfin, et ils ont l'impression que bah des gens à l'inverse de ça, boum, ils savent super écrire dès le début, super faire des photos hyper cadrées. Moi je sais que la manière dont je cadre mes photos, elle est venue peu à peu. Je dis pas qu'elle est incroyablement géniale aujourd'hui et qu'elle était nulle au départ, mais quand même, ça m'arrive de retomber sur des photos d'il y a 15 ans et de me dire mais pourquoi j'ai pris ça comme ça. Je vois la scène et je me dis fallait vraiment la prendre plutôt dans cet axe là et c'est pas un truc que j'ai théorisé au fur et à mesure, c'est juste qu'à force de faire des photos, mon cadre il s'est déplacé comme ça. Donc c'est... Non, je crois pas trop aux théories là-dessus, aux ateliers d'écriture, tous ces trucs-là.
Pourquoi t'aimes la photo ?
Bah parce que c'est gratuit, quoi. C'est-à-dire que non, mais c'est gratuit dans le sens que un truc qui n'existait pas 2 minutes avant et que tu ne reverras jamais de ta vie peut être intéressant. Alors que dans d'autres domaines, comme la chanson, t'attends qu'un truc compte beaucoup pour toi, existe depuis longtemps ou se reproduise régulièrement ou tu vois, il y a gratuit dans ce sens-là. C'est et totalement extérieur à toi aussi. C'est-à-dire que, tu vois, une vieille grand-mère a les cheveux, avec des cheveux de punk violets et 3 chiens au bout d'une laisse, bon bah, super, la photo elle peut être vraiment canon, quoi. Mais je vais pas faire une chanson là-dessus. Donc c'est un autre domaine qui est ressourçant pour cette raison-là. Parce qu'au lieu de te dire au fond de toi, tiens, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que je ressens, qui vaille vraiment la peine d'être dit et tout ça, là, t'es dans un truc, t'es dans une. Ouais, face au rayon des bons becs et tu prends. Et des fois, il n'y a rien, il n'y a aucun bonbon mais, de la journée ou tout ça. Mais souvent, il y a un truc.
Il y a un truc un peu bizarre dans ton rapport au temps. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui. Genre à la fois t'es pas quelqu'un de nostalgique et t'aimes bien fixer les choses mais t'as pas capté Memory, quid. Allô, ici la Fanny du montage, je précise pour ceux qui ne savent pas, Memory c'est une pièce de Vincent Delerme jouée de 2011 à 2013 dans laquelle il parlait de notre rapport au temps et aux souvenirs, et donc c'est pour ça que je trouve très ironique le fait qu'il ne l'ait jamais filmé et donc il n'existe aucune copie.
Moi j'adore le temps en fait, j'adore, je trouve ça toujours marrant que les gens, ils ont un vrai truc avec ça. un peu peur de ça aussi, et ça se comprend. Il y a des gens aussi qui ont vécu des trucs dont ils veulent plus du tout se souvenir et qui veulent. Et moi, j'ai un peu le truc inverse, non pas que ce que j'ai vécu était tout le temps génial, mais c'est simplement que ça me plaît de contenir des trucs et de le télescoper en permanence avec qui on est aujourd'hui et de me dire, ça c'est marrant, on est passé par là, on a tous traversé ce truc là et puis là on est dans une soirée en train de boire des coups alors qu'en fait en ayant un peu une posture sociale, alors que finalement bon bah voilà, on a tous collé nos chewing-gums sous une table de bahut quoi, en gros. Donc ça permet aussi de niveler les trucs et de pas trop se la raconter ou de se rassurer, je sais pas, ça m'a toujours plu, puis ça m'a toujours j'aime ça. Si je me promène dans un coin, dans une rue de Paris où j'ai vécu un truc il y a longtemps, je vais pas me dire ah là là c'était génial, j'aimerais tellement revivre ça et tout. Mais par contre, ça me plaît de voir la fenêtre, de me dire tiens c'est marrant, ils ont repeint comme ci comme ça. Enfin, de voilà, de superposer comme des couches le truc. Memory, c'est un peu un hasard que ça ait pas été. Enfin, là ça fait 20 ans que je fais ça. Les 10 premières années, l'industrie était quand même plus relaxe économiquement, donc il y avait plus de captation de spectacles et tout ça. Maintenant, c'est quand même moins systématique. Et tout le temps des soundbooks avec les partitions qui sortaient des albums, c'est moins le cas aujourd'hui et tout ça. Mais Memory, ça a été capté et le mec s'est fait braquer son ordinateur le soir même, en fait, avec la piste de son. Donc on a la piste visuelle, on a les images, mais on n'a pas le son. Donc après, c'est un projet régulier de se dire bon, quand même, ce serait bien de revoir ces images, de se demander si on peut pas choper sur d'autres trucs à partir de d'autres spectacles dont on aurait une trace audio. Mais c'est quand même un mec qui parle, donc si t'as pas le son, bon, bref. Et puis ça m'allait aussi, un côté un peu c'était un peu la mythologie Valérie Le Mercier là, qui filme jamais ses spectacles. Comme Memory, c'était un spectacle dont une des raisons, un des points de départ était aussi cette idée qu'il y avait les gens qui me voyaient sur scène, qui avaient une certaine vision de ce que je fais, et les gens qui savaient pas, qui parlaient juste en entendant une chanson, qu'ils aimaient ou qu'ils aimaient pas, je m'étais dit tiens, ce serait bien de faire un truc où pour en parler, il faut avoir vu le spectacle, une sorte d'obligation quoi, tu vois. Donc il y avait des chansons dedans, mais ça avait pas fait l'objet d'un disque. Et donc voilà, donc c'était ça un peu le point de départ. Donc il y avait, puis c'était très étrange comme spectacle. Et d'ailleurs, ça aurait peut-être été un peu chiant parce que quand tu fais des trucs à peu sur scène, des seuls en scène ou des trucs où là on était deux, et bah ça ne pose aucun problème d'énergie quand t'es en spectacle, parce que toi t'es là, parce que tu renvoies un truc aux gens, et parce qu'au contraire, même le fait d'être tout seul, tu mets une sorte d'emprise sur la salle qui est assez pas étonnante, mais enfin tu vois, tu dis putain, le mec il arrive à tenir ça tout, parce que tu te branches quoi. Vraiment, c'est le meilleur verbe qu'on puisse utiliser, c'est un truc un peu électrique comme ça, tu te branches sur les gens, tu les tiens et voilà. Quand tu filmes ça, bah ça reste quand même un mec qui a son piano pendant 1h40, donc à se taper en vidéo, c'est pas simple. De temps en temps, on l'a fait, et les fois on l'a fait, il faut toujours trouver un peu des astuces. Surtout que moi, je veux pas qu'il y ait une grue qui passe au-dessus des gens, je veux pas qu'on voit un technicien sur le côté, parce que ça sort tout de suite les gens de l'histoire. Donc techniquement parlant, t'es quand même assez vite limité. Voilà. Mais finalement, tu vois, Memory qui existe pas. Bon, si ça existait, je serais très content, mais ça existe pas. Je me dis, bon, c'est un peu.
Mais
c'est
un truc un peu ironique.
Hein?
Il y a un truc un peu ironique, frustrant.
Ah oui. Bah aussi, ça permet aussi aux gens qui pensent qu'ils l'ont pas vu et qui pensent que c'était super de rester là-dessus. Hein. Peut-être s'ils le voyaient.
D'où ça vient ta curiosité et ton observation pour les détails et tout, le fait de pouvoir... J'ai lu que t'avais dit un truc, j'aime dire des choses sentimentales sans dire les sentiments eux-mêmes. Il y a un truc toujours de parler de l'à côté, des choses autour. Et je trouve qu'il, là, m'a un peu fait penser à Holden Caulfield de La Trappe-Cœur, pour le coup. Ce côté de, ouais, ça s'accrochait à des détails pour ne pas aller au cœur des choses.
De mon père. Ça, vraiment, tu vois, moi, je suis pas quelqu'un qui met le sujet... systématiquement là-dessus, et puis même souvent, tu vois, avec mon père, on a jamais fait de promo ensemble, tu vois. Les seules fois qu'on a fait, c'est on s'est fait piéger. On dit, ah bah tiens, on a fait une surprise. Hein. Mais donc, j'ai toujours fait hyper gaffe à ça. Mais par contre, c'est sûr que là, dans un domaine comme ça, très tôt, c'est-à-dire que de. Alors, comment on pourrait formuler ça? Parce que finalement, les gens, il y a des mots-clés comme ça, tu vois, le détail ou le quotidien, enfin, qui finalement, en plus, sont des mots qui. Souvent incite génère une forme de condescendance aussi, genre oui, c'est un peu le truc du quotidien ou des détails. Il y a beaucoup de gens qui ont cette lecture là, tu sais. Pour moi, c'était vraiment presque le truc inverse, c'est-à-dire que je trouvais enfant, là je parle même pas de, quand je dis mon père, je dis pas mon père comme écrivain, je dis comme être humain. Mon père, il faisait des imitations, par exemple, mais il imitait pas Joe Dassin ou François Mitterrand, tu vois, il imitait que des gens de notre quartier. Donc la propriétaire de la maison, la voisine, et donc c'était comme si il créait une sorte donnait une sorte d'importance à des trucs proches de nous, là où je sais pas si c'est un truc français, mais souvent les gens se disent bon bah moi je te raconte pas ma vie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ou enfin les gens bradent un peu leur existence, comme si c'était comme si le fait que ce soit leur, qu'il y ait des choses quotidiennes, n'ont pas d'intérêt. Alors heureusement, la littérature se charge, Nicolas Mathieu, Annie Arnaud, enfin, se charge aussi de trouver des trucs, des résonances très très fortes dans des choses rituelles ou des choses. Voilà, ça, ce truc de se dire, ta vie, c'est pas rien. Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est quand même marrant. Mais ça peut être négatif aussi, hein, parce que mon père, il a une manière d'analyser aussi les choses, de se dire quand telle personne dans une soirée dit ça, ça veut dire ça. Ça, c'est plus l'école, pour le coup, en littérature, Nathalie Sarraute, pour un nom. Le fait qu'à un moment donné, telle personne, un moment, a dit ça. Après, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de s'emmerder avec ce genre de micro-détails, tu vois, qui disent voilà, quelle prise de tête et ça. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça dit toujours quelque chose des gens, de ton rapport aux choses et finalement tu vois là ouais de passer enfin moi par exemple j'adore le tête à tête parce que tu passes du temps avec quelqu'un, que ce soit dans ce qu'on fait là ou quand tu parles avec quelqu'un dans un bar ou après un concert ou même un ami que t'as depuis toujours et que tu revois juste pour déjeuner, tu te branches quand même sur une sorte de logique face à toi, d'une manière dont tu te brancherais pas du tout si tu fais une conférence de presse, si t'es avec plein de gens, ça peut être très sympa. Et d'ailleurs, tout le monde se dit les dîners où il y a plein de monde, en gros, rien ne se dit. Alors que si tu vois des gens en très petit comité, bah tu peux plus te permettre d'être toi, d'être perso, de dire des trucs un peu difficiles à dire s'il y a trop de témoins et donc ça joue beaucoup. Donc finalement, le sens du détail pour moi, ça a toujours été aussi ce truc un peu du tête-à-tête. C'est-à-dire que dans ce que je fais, dans ce que j'aime, dans les films que j'aime, c'est quand même souvent ça. C'est souvent des gens qui sont dans un appartement, ou qui discutent, ou qui ont une histoire d'amour comme ci, comme ça. Mais oui, c'est rarement des grandes fresques avec 48 personnages.
Il y a un truc que j'aime beaucoup là-dedans, qui est que... les détails et les choses du quotidien, comme tu disais, c'est quand même genre 90%, 90% ouais. De ce qu'on voit, de ce qu'on fait et tout. Et, ouais. Et par exemple, moi, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que je déteste voyager, mais j'adore l'idée de voyager. Et donc, si je vois un truc, là, je regardais White Lotus, je me disais, OK, c'est magnifique, je vais partir sur une île paradisiaque parce que c'est incroyable. Je sais qu'à la seconde où je vais mettre le pied dans le sable, je vais vouloir rentrer parce que c'est trop chaud, parce qu'il y en a partout, parce que machin. Et donc, tu vois, il y a ce truc de... Les détails en eux-mêmes nous rappellent que l'image qu'on a fantasmée, ça reste une image, ça reste un fantasme et c'est pas réel. Et là, je commence seulement à prendre la mesure de à quel point il y a plein de choses que j'imagine. Genre, j'imagine, je vais faire une fête, ça va être incroyable et tout. J'imagine l'ambiance générale, mais pas les petits détails qui, en fait, ramènent à quelque chose de beaucoup plus factuel, en fait.
Ouais, et ouais.
J'ai lu un extrait de Léonard a une sensibilité de gauche. Yay, c'est encore la famille du montage. Pour info, Léonard a une sensibilité de gauche, c'est un livre disque pour enfants écrit par Vincent Delerme. Où justement, ça aborde ça parce que Grand-Pierre lui demande, ta sensibilité, c'est plutôt d'aimer le moment où on prépare une fête, où on accroche les guirlandes, où on gonfle les ballons, encore plus que le moment de la fête. Et je trouve que c'est un peu ce truc de, tu prépares une image mentale que tu aimes presque encore plus que la réalité, en fait.
Bah oui, après, il y a plein de trucs dans ce que tu dis. Mais c'est sûr que je crois beaucoup à ça. Il n'y a pas de question, mais... déjà, ce que tu dis là, ça pose aussi la question du stand-up et des mises en forme et tout. C'est-à-dire que l'idée que tu viens d'émettre, tu peux... Finalement, dans le stand-up, si je devais... moi, par exemple, des fois, c'est un problème avec stand-up parce que je trouve que la formulation... Enfin, justement, ce que tu veux dire l'emporte. C'est-à-dire que si je schématisais, je dirais, je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois on a envie de partir en voyage et puis en fait une fois qu'on y est, on n'a plus du tout envie. Cette idée-là, c'est une idée qui peut être très belle, enfin tu vois, qui est très forte, qui est très, tu vois, très perso. Je me suis mis à vibrer là, sur ce truc-là. Et donc, en fait, quand moi, finalement, dans ce que je défends comme chanteur, enfin dans mes chansons, c'est souvent des trucs qui pourraient être traités en stand-up. Parce que...
D'ailleurs, le titre de ton film, je sais pas si c'est tout le monde,
ouais.
C'est vraiment une autre version du « je sais pas si vous avez remarqué ».
Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est, pour le coup, c'est une phrase qui est pas de moi, je sais pas si c'est tout le monde, mais c'était dans un bouquin de Duras. Mais oui, oui, et oui, c'est ça, le truc, mais oui, j'ai pas si vous avez remarqué, mais quand t'es dans une boulangerie, ta. Donc, ça joue sur un truc qui m'intéresse, qui c'est de dire, en fait, je vais pointer un truc que tout le monde connaît, mais qu'on a tous l'impression... soit de vivre tout seul, soit qu'on ne s'est jamais formulé à soi, et là, grâce à ça, voilà. Mais sauf que souvent, l'esthétique autour de ça, bah, c'est aussi l'esthétique du stand-up, tu vois, une lumière fixe. Il y a une phrase qui n'est pas une phrase que tu peux te redire chez toi comme une chanson, enfin, tu vois, donc, vaguement, tu vas t'en souvenir, et ça, souvent, je me dis, il y a un gâchis de ça, parce qu'il y a plein de super idées, mais, qui sont envoyés comme ça et voilà, je sais pas pourquoi je suis parti de ça parce que c'est toi qui me pose cette question là et que effectivement tu dis 90 mais oui c'est même encore plus que ça quoi, toutes ces choses qui sont nos logiciels, qui sont des trucs, finalement ce qui va leur donner encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre rédiger un truc pour ton psy et en faire quelque chose que tu pourrais présenter sur une scène là, pour le coup en stand-up ou en spectacle de chansons. Bah, il faut l'organiser d'une manière qui tient la route, qui est convaincante et qui fait que les gens basculent de ton côté au lieu de se dire oui, je vois le truc, mais bon, est-ce que ça vaut la peine d'en faire quand même un spectacle ou enfin. Et du coup, j'ai pas répondu au truc de l'avant. Le truc de l'avant, oui, je crois quand même pas mal à ça. J'ai un de mes deux fils qui est très là-dedans, qui dit toujours j'ai hâte de ça parce qu'il va y avoir ça, qui se projette tout le temps. Et c'est sûr que c'est pas que t'es déçu après, mais qu'en tout cas, la phase avant, elle est hyper importante. Ouais.
Du coup, j'ai deux questions. Si on te donnait un spectacle de stand-up,
oui.
Un texte qui existe déjà,
oui.
Avec plein d'idées que t'aimes, mais t'en ferais quoi ? Qu'est-ce que tu changerais ?
Je saurais pas trop te dire ce que je changerais, parce que je vais pas non plus... Moi, ce que j'aime dans le stand-up, pour le coup, et ce que j'aime dans mes trucs à moi, c'est que ça vienne de la personne qui fait le spectacle et tout. C'est un truc, c'est sa responsabilité. Et d'ailleurs, j'ai jamais été quelqu'un qui a su brainstormer avec d'autres gens ou écrire à deux et tout ça. Après, moi, ce que j'aime, c'est que les gens se disent à partir d'une idée d'un truc qu'on vit tous et tout. Qui se disent, en gros, si je schématise hein, vraiment, en gros, quand même la vie, c'est quand même un truc assez génial et c'est bouleversant en fait. Donc un truc, c'est un lyrisme. J'ai envie que ça devienne lyrique. C'est-à-dire que, pardon, j'ai beaucoup parlé du Gaulleris et de ce poste, mais je crois parce que je fonctionne comme ça, je suis sur un truc là. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, bon, bah voilà, tout le monde a eu un gamin qui aime bien les footballeurs, a demandé un maillot pour Noël d'un joueur de foot, a envoyé un dessin, a rencontré un jour un joueur qui lui a fait une dédicace ou je sais pas quoi. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'écrire un truc à partir de ça qui limite mettre les larmes aux yeux. Après, c'est bizarre de dire ça d'un truc que tu as écrit, mais c'est ça l'objectif. Et puis, la plupart du temps, ça n'arrive pas. Mais quand même, c'est-à-dire, et le lyrisme, c'est ça. C'est rendre hommage à ce qu'est notre vie en se disant waouh quand même, parce que finalement je trouve que les gens ils se permettent d'être lyriques, enfin ils conçoivent les choses lyriquement que sur des décès, que sur enfin tu vois, et d'un seul coup elle comptait tellement dans notre vie, Mylène de Mongeau, que dont personne n'a jamais parlé avant, personnellement je dis pas ça contre elle, moi je trouve ça fou à quel point les gens ont du mal à juger, alors que c'est en train de se passer, de la force de ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que sur leur lit de mort, ils vont dire oh, putain, c'était tellement génial quand j'avais 48 ans et que je faisais ça. Et bah oui, bah dis-le maintenant ou formule-le maintenant. Ça n'a pas de sens de dire juste c'est génial ce que je vis maintenant. Mais en tout cas, on sait qu'à un moment donné, on va être dans un truc, c'est de passage, que voilà, tant qu'on a la chance de ne pas être trop malade ou trop. C'est quand même. On vit dans un pays qui est luxueux parce que. Même si on n'est pas du tout heureux de nos dirigeants et tout, bah on peut quand même marcher dans une rue, tu vois, faire un peu ce qu'on veut d'une certaine manière. Évidemment qu'il y a plein de limites et qu'il y a des zones aussi où le pays n'est pas si permissif que ça. Mais enfin, il faut aussi avoir quand même conscience de nos luxes de vie et de grande liberté aussi à plein d'égards, qui ne vient pas de, qui n'est pas dû à nos dirigeants actuels, qui est un truc, qui est un héritage qu'on a depuis longtemps. Mais voilà, donc voilà, je dirais que c'est ça, que j'essaierais de mettre, bah oui, ou de l'émotion, je dis du lyrisme, c'est voir, montrer le côté touchant. Ça veut pas dire que c'est génial, que c'est hyper important, mais c'est juste, c'est touchant.
Mais là, tu dis, les gens en général, ils se permettent le lyrisme que pour les décès et tout, mais concrètement, là, c'est pas un décès, mais c'est une fin quand même. Hugo Lloris qui part.
Oui, c'est une fin sans en être une, parce qu'il arrête juste l'équipe de France, donc tu pourrais dire, bon, bah, j'attendrai qu'il soit parti, qu'il prenne vraiment sa retraite complètement pour faire un truc sur lui. Non, c'était une occasion de témoigner quelque chose à quelqu'un. Oui, c'est sûr que les fins de tournée, ça permet aussi autre chose, mais moi, bah, j'ai toujours beaucoup j'ai toujours voulu faire des chansons qui rendent hommage au sentiment amoureux quand il est là, quoi, pas que sur des ruptures et tout ça. J'ai assez peu de chansons de rupture. Lié à la rupture sentimentale. J'ai beaucoup de chansons où t'es amoureux, tu traverses la ville pour rejoindre quelqu'un que t'aimes. Et ça, une fois que tu le dis, comme tout le monde, en fait, non. Parce qu'en chanson, il y a une énorme tradition de faire des chansons seulement quand la personne est partie et que ça va pas bien. Et,
pourquoi voilà. Tu penses?
Ouais, parce que c'est inattaquable. Tu te dis, le mec, il s'est fait plaquer.
Je vais pas en rajouter en disant que sa chanson, elle est nulle.
Exactement. Et parce que il y a une non mais c'est une valeur sûre, quoi, tu vois, c'est comme si oui c'est comme si tu dis tu fais une chanson sur quelqu'un qui a disparu voilà c'est pas tout à fait pareil, mais et puis parce que il y a une culture aussi un peu négative, c'est-à-dire que tout ce qui est un peu torturé est davantage respecté. Dès que tu fais une chanson plus positive, évidemment que t'as toujours le risque de faire un truc très cucul à praline, donc tout le monde a très peur de ça, parce qu'en chanson, ça fait peur. C'est normal. Parce que ça peut être très cucu et ça ne va pas quand c'est ça. Mais c'est justement l'enjeu d'arriver à faire un truc positif, mais qui tienne la route et qui reste à peu près élégant. Enfin bon, pardon, je dis des trucs comme si c'était qui caractérise ce que je fais, mais c'est ce que tu vises, encore une fois. C'est pas forcément ce que t'obtiens, mais voilà.
Dernière question pour boucler la boucle d'une demi-question que j'ai posée au début. Il y a quoi sur ta liste des plus?
Je pense c'est pas facile, hein. C'est comme je pense être un mec assez sympa quand même, ce qui est très con, mais finalement qui compte pas mal dans quand tu fais ces métiers là aussi, parce qu'au bout d'un moment en plus je crois qu'il y a eu un moment où il y avait une sorte de mythologie des chieurs et c'est fini, mais ça c'est pas mal, parce que tu vois genre le mec ou les filles qui parlaient mal aux gens, qui avaient des exigences pas possibles en tournée et tout, qui disaient bonjour à personne, enfin. Bon, ça c'est quand même un truc qui est agréable quand ça fait un moment que tu fais ça, c'est que tu passes dans le théâtre où t'es déjà allé, et si t'y as déjà été, tu sais que les gens ils se disent, ils ont un bon souvenir, enfin tu compliques pas la sauce, quoi. Enfin moi je sais que j'aime pas trop le conflit et que ça c'est une de mes grosses fiertés, c'est de me dire les mecs avec qui je fais des spectacles de mon équipe technique là depuis 20 ans pour certains, enfin l'ingé son il est là depuis le premier spectacle de ma première tournée. Mec en lumière, il est là depuis 2004. On sait jamais, il n'y a jamais eu une engueulade, quoi. Mais c'est. Alors que moi, je suis assez exigeant sur des trucs, mais c'est un. Bon, voilà. Donc, je pense que je suis assez facile à vivre. Ouais. Je dirais que c'est mon point fort.
Okay. Merci, Vincent.
Je t'en prie.
J'espère que l'épisode vous a plu et vous a donné envie d'écouter la musique de Vincent Delerme. Je mets tous les liens pour ça en description. Et d'ailleurs, pour fêter ses 20 ans de carrière, Vincent vient de sortir un livre-disque qui contient un bouquin de photos, de notes, tout ça, et deux albums. Le premier, Comme une histoire, il rassemble plein d'archives, de vieux enregistrements, des morceaux inédits. Et le second, Sans paroles, ce sont des versions piano de 20 chansons à lui. Prochain épisode, Des gens qui doutent, dans 2 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser des commentaires, des étoiles et tout, ça aide vraiment beaucoup. Et puis, vous pouvez me suivre sur les réseaux @FannyRuet pour être tenu au courant de la suite. Des bisous! Et puis des bisous aussi à Maxime Wathieu qui a composé ce générique et mixé cet épisode.